placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Une louange à
l'âme.
Il m'a placé sur le solide roc à ses côtés. Mes pas ont été établis et je vais y rester. Pas de risque de tomber tant que je reste ici. Mais je tiens ferme par sa grâce jusqu'à ce que je remporte la couronne. Il m'a fait sortir de la boue du péché. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Mon cœur était affligé sous les sourcils froncés de Jéhovah. Et bas dans la fosse où mes péchés m'ont entraîné, j'ai crié au Seigneur du profond de la boue. Et il m'a tendrement fait sortir jusqu'au jour de gloire. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un chant, c'était un nouveau chant de louange. De jour comme nuit, je chante ces douces notes. Mon cœur déborde, je suis heureux et libre. Je louerai mon Rédempteur qui m'a sauvé. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Il m'a placé sur le solide roc à ses côtés. Mes pas ont été établis, je vais y rester. Pas de risque de tomber tant que je reste ici. Mais je tiens ferme par sa grâce jusqu'à ce que je remporte la couronne. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Il m'a placé sur le solide roc à ses côtés. Mes pas ont été établis et là je resterai. Pas de risque de tomber tant que je reste ici. Mais je tiens ferme par sa grâce jusqu'à ce que je remporte la couronne. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui, un chant de louange, alléluia. Capons-le demain maintenant. Louez soit le Seigneur. Nous tenons sur ce roc. Louez soit le nom du Seigneur. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Est-ce qu'il vous a fait sortir? Nous tenons sur le roc. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Nous allons le chanter encore. Il m'a placé sur ce solide roc à ses côtés. Mes pas ont été établis et je vais y rester. Pas de risque de tomber tant que je reste ici. Mais je tiens ferme par sa grâce jusqu'à ce que je remporte la couronne. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. On ne peut pas s'empêcher de louer. Merci, Seigneur Jésus. Sors-moi de là. Merci pour ton messager prophète. Merci pour le message. Merci, Seigneur. C'est sur quoi nous nous reposons, c'est de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
Il a placé mes pieds sur le roc. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui, un chant de louange. Alléluia.
Loué soit le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.
Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Quel grand privilège d'être ici avec vous aujourd'hui, d'être assemblés ensemble sous le grand Saint-Esprit pour entendre la voix de Dieu nous parler par la voix de son messager, de se festoyer sur cette parole. Voilà le rocher sur lequel nous nous reposons. Nous ne bougeons pas de là. Rien ne peut nous ébranler. Nous sommes ancrés sur ce rocher, le rocher de la révélation de Jésus-Christ pour notre jour. C'est ainsi dit le Seigneur et rien ne peut nous bouger de là. Amen. Quel privilège d'être ici avec vous, cette épouse.
Oh,
quel sentiment cela est de me tenir devant l'épouse. Vous devez être très prudent de ce que vous dites, parce que je parle à l'épouse élue ce soir. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes peut-être sur la ligne, à l'écoute, peut-être dans votre église, dans votre véhicule à la maison. Vous êtes l'épouse élue qu'il a appelée et prédestinée avant la fondation du monde.
Amen.
Vous avez saisi la vision. Vous êtes prêt à entendre cette voix. Et cette voix représente tout pour nous. C'est plus que la vie pour nous. Cela veut tout dire pour nous. Amen. Je veux seulement donner une bienvenue spéciale à Frère Joseph aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, Frère Joseph. Joseph. Merci, Seigneur Jésus. Je marchais à la maison l'autre jour, hier soir, après-midi, et je faisais, oh, je m'ennuie, j'ai la nostalgie de Frère Joseph, c'est comme ça. Et alors, je veux que, peut-être que, que tu commences tout simplement à te reposer, prends tout le temps que tu as besoin, mais dépêche-toi de revenir. Alors, nous t'aimons. Alors, nous souhaitons la bienvenue à l'épouse Seigneur Jésus-Christ à travers le monde entier. Vous êtes ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Quel honneur d'être ici avec vous. Mais vous savez, pour moi, c'est tellement un grand moment. C'est merveilleux de penser à cela. À Goshen, chaque famille se sont toutes rassemblées là-bas avant de l'exil. Ils avaient un prophète. Chaque famille a dû aller appliquer le sang sur les linteaux. Chaque famille devait le faire. Et ils devaient le mettre sur le linteau, mais ils avaient ce prophète messager et qui suivait ce message. Ils obéissaient à ce que le prophète avait dit. Ils faisaient exactement la façon dont le prophète avait dit de le faire. Il y a un autre moment comme ça aussi. Peut-être que c'était comme nous. Toute la semaine, nous avons appliqué le sang. Nous avons lu le livre des sept âges. Nous avons écouté le message de l'âge de l'église de Sardes avec notre famille assemblée ensemble tous les soirs. Nous appliquons le signe. Nous avons les réunions de famille. Nous avons des prières. Nous nourrissons de ce message continuellement, tout le temps. Il y a un autre jour comme cela, de notre époque, où ils étaient 120 qui se sont réunis dans la chambre haute.
One wasn't in Galilée and the other one was in Sheba and all like that.
Il n'y avait pas un à Galilée et un à Sheba. Ils étaient non, tous dans la même pièce, une pensée, un seul esprit, même accord. C'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous dans cette petite place et ils attendaient que le Saint-Esprit parle. Nous attendons que le Saint-Esprit parle et il va nous parler aujourd'hui. Et c'est tellement grand qu'il n'y a jamais eu un temps comme ça aujourd'hui. C'est plus grand que Goshen, c'est plus grand que le jour de la Pentecôte. Que Dieu appelle son épouse à travers le monde entier. Comme jamais auparavant, ça n'est jamais arrivé qu'à ce moment-ci, que l'épouse puisse entendre la voix de Dieu, le même message en même temps, le même passé, le même accord, Dieu accomplissant sa parole. Et vous faites partie de cela. Loué soit le Seigneur. Vous en faites partie. Et le Seigneur vous bénisse. Cela me fait penser à cette petite citation. Frère Branham dit ceci. Et puis quelqu'un vient de donner un mot. Il est venu, il m'a donné un mot à ce sujet, au sujet des réunions pour demain. Vous, qui êtes ici pour nous rendre visite, nous serions certainement heureux de vous recevoir à 14h demain cet après-midi. Ils auront des réunions d'écoute de bande. Et si vous n'avez rien à faire, il y aura un des messages que vous n'avez jamais entendu qui sera joué et nous aurons une réunion de prière et nous attendons simplement un bon moment demain après-midi à 14h. Fin de la citation. Nous allons l'écouter comme jamais auparavant. Loué soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique. Et il ne peut être que compris par une classe prophétique de gens. Et ces gens sont des gens qui écoutent les bandes. Oh, j'aime cela. C'est les seules personnes qui peuvent l'écouter. Frère Branham nous fait entrer ça profondément avec chacun de ces messages. Que ces messages sont adressés à l'ange de l'Église. C'est pas adressé à personne d'autre. C'est adressé à l'ange. Et ce messager a reçu une révélation spéciale, une manne cachée, afin de pouvoir enseigner aux autres. Oh, j'aime ça aussi. Restez avec l'enseignement de ces bandes, frères. L'âge de l'église d'Éphèse, une des choses que nous avons découvert, c'est qu'ils avaient quitté leur premier amour. On ne veut pas faire ça. Non, monsieur. Gardez cet amour. Laissez-la couler à travers vous. Oh, Seigneur, remplis-moi avec ton amour. Amen. Et il y avait les œuvres des Nicolaïtes. Conquérir, renverser les laïcs. Restez avec les bandes. Rien ne peut enlever ce message pour moi. Non, monsieur. Je reste avec ces bandes. Et vous aussi. Ils essayaient de conquérir et de renverser les laïcs. Ils ont rejeté la conduite du Saint-Esprit par la conduite du prophète. C'est exactement vrai. Et dans l'âge de l'église de Smyrne, ils sont devenus amers. Frère Branham a dit, citation, c'était une amertume accrue envers la véritable vigne par la fausse vigne. Mais nous ne voulons pas avoir aucune amertume dans notre cas. Oh Seigneur, nettoie-moi de toute amertume. Tout ce qu'il peut avoir en moi, enlève-le. Je ne veux pas ça dans ma vie. Peu importe ce qui vient sur mon chemin. Aide-moi, Seigneur Jésus. L'âge de l'Église de Pergame, nous avons découvert que c'était le mariage de l'Église et de l'État. Ce n'était plus une œuvre, c'est devenu une doctrine, et la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Mais l'épouse a la révélation, restez avec l'enseignement des bandes. Ensuite, nous avons découvert dans l'âge de l'Église de Thyatire, la quatrième, maintenant, ils avaient une Jézabel. Elle se faisait appeler une prophétesse, une église. Mais souvenez-vous, elle n'était pas une fille d'Abraham. Non, elle n'était pas une fille d'Abraham. Qu'est-ce qu'elle a fait, frère Branham a dit? Elle a tué tous les prophètes qu'elle a pu trouver. C'est ce qu'il a dit. Il y a quelque chose de bon à propos de cela. Frère Branham dit dans l'église de Thyatire, mais la vieille Élie était la voix de Dieu en ce jour-là. Il était certainement le type même de la voix de Dieu à la première venue du Christ, et ce sera le type de la voix à la seconde venue de Christ à nouveau, selon les Écritures. Fin de la citation. Oui, sois le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jézabel se disait prophétesse. Elle prétend qu'elle est la seule qui a l'autorité d'interpréter la parole. C'est ce qu'elle prétend. Vous devez être prudent lorsque vous dites que quelqu'un est prophète. Vous êtes mieux de savoir ce que vous dites lorsque vous dites ça. C'est mieux de savoir exactement ce que vous faites lorsque vous dites cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Frère Branham a dit, dans l'église de Thyatire, il a dit, citation, un prophète à l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Comment peut-on appeler quelqu'un un prophète et dire ensuite qu'ils ont la mauvaise révélation? C'est tout aussi sensé que la filiation éternelle, vous voyez? Vous voyez? Un prophète signifie le divin interprète, celui à qui vient la parole du Seigneur, la révélation lui vient. Fin de la citation. Nous croyons les prophètes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il a dit dans la même bande, il a dit, citation, si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, écoutez-moi. Fin de la citation. Nous allons t'écouter, frère Branham, nous te croyons. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ n'entendra rien de moins que la voix de Dieu par la voix de son messager prophète. C'est le message d'un seul homme. Ce message est notre absolu. Nous n'avons pas besoin de personne pour nous expliquer. Écoutez simplement les bandes et vous allez recevoir la révélation vous-même. Frère Branham a dit dans ce message de ce soir, il a dit les sept esprits et les sept étoiles. Les esprits, ce sont les anges qui sont allés vers les étoiles, qui étaient des messagers. Alors, je suis désolé, j'aime ça. C'est merveilleux. Mais vous devez l'entendre, parce que je peux le dire, mais ça ne veut pas dire la même chose que lorsque vous l'entendez. Mais laissez-moi vous le partager à nouveau. Citation, les sept esprits et les sept étoiles, les esprits, ce sont les anges qui sont allés vers les étoiles qui étaient des messagers. Cet esprit, à cette reprise, le Saint-Esprit a envoyé un messager qui a été une étoile en son jour. Un esprit est éternel et l'étoile a pour but de refléter la lumière dans les ténèbres de ces âges de l'Église. C'est ce que représentent les chandeliers et les étoiles. L'ange, l'esprit, c'était celui qui était allé vers l'étoile pour refléter la lumière du Saint-Esprit par cette étoile pour cet âge de l'Église. Pour que vous puissiez savoir, vous demandez qui sont cet esprit. Ce sont les sept messagers des sept âges de l'Église, voyez? Bon, et chaque fois que l'étoile est entrée en scène, le Saint-Esprit est descendu et a oint cette étoile et l'a gardée exactement pareil à la première. Fin de la citation. Quelle lettre d'amour pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu et a oint cette étoile. Alors, combien d'entre vous ici et ceux sur la ligne, posez-vous cette question. Combien d'entre vous, véritablement de tout votre cœur, vous voulez la volonté parfaite du Seigneur dans votre vie? Il n'y a seulement qu'une façon que vous puissiez savoir que vous êtes dans la volonté parfaite du Seigneur et que vous suivez l'onction véritable du Saint-Esprit qui conduit votre vie. Il n'y a qu'une seule chose de la fin. Écoutez les bandes. Restez avec les bandes. Croyez son prophète. Amen. Obéissez son prophète. C'est la seule façon. Il n'y a qu'une seule façon d'être sûr que vous avez la véritable onction. La conduite du Saint-Esprit, c'est d'écouter les bandes et croyez ce prophète, obéissez ce prophète. Ça n'a pas besoin d'explication. Ce message parle de lui-même. S'il devait y avoir encore 100 ans, ce message va demeurer exactement comme il est aujourd'hui. Dans 100 ans d'ici, ça va dire la même chose parce que c'est la voix de Dieu pour l'épouse de Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'écouter cette voix. Je ne suis pas ici. Nous ne sommes pas ici pour expliquer ce message, pour enseigner ce message, ou pour interpréter ce message, ou pour injecter nos pensées dans ce message. Nous sommes seulement ici pour vous présenter aujourd'hui que le septième ange messager va parler ce dimanche, le 17 février 2019, à 2h cet après-midi. Écoutez-le! Oh, comme c'est merveilleux! De tout mon cœur! Je vais m'asseoir dans une minute. Une dernière citation. Frère Branham a dit, citation, il est dans son messager et il qui a la plénitude de Dieu va suivre le messager comme le messager et suit le Seigneur par sa parole. Fin de la citation. Ça règle la question pour moi. Je ne peux pas attendre de m'asseoir Peu importe où ce sera. Je ne peux pas attendre de sentir sa présence, de lui qui me parle, et pour m'encourager, pour vous dire à moi et vous que vous êtes une partie de l'épouse. Vous êtes cette semence royale d'Abraham. N'est-ce pas que c'est suffisant de croire son prophète et de dire,
Frère Branham,
cela n'est rien d'autre que la vérité. Et il y avait une petite femme une fois qui a dit, Frère Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. Et vous savez ce qui est arrivé. Pour la première fois sur un humain, le troisième poule s'est rendu manifeste. C'est manifesté. Elle a seulement dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Ce n'est rien d'autre que la vérité. Ça réglé la question. Ça me réconforte. Je suis en paix. Et je n'ai rien à expliquer. J'ai tout à croire. Cette parole de ce prophète. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. Que la paix soit avec vous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, conduis-moi. Et je vais te suivre. D'être assemblés en ton nom. Et Père, de savoir que si nous avons une requête sur notre cœur, une maladie dans notre vie, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tous besoin de toi et nous pouvons venir à toi et nous savons que tu es là, Seigneur, et que tu peux nous donner la vie. Et Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette opportunité, Seigneur, de te parler, Seigneur, Jésus. Oh, comme c'est merveilleux que nous puissions, en tant que chrétiens, venir à toi, Seigneur, lorsque nous sommes dans un monde mourant, Seigneur, qu'il n'y a aucun espoir. Mais nous avons espoir en toi. Nous te faisons confiance, nous t'aimons et nous savons que tu viens pour une épouse. Prépare notre cœur pour entendre ce message. Seigneur Jésus, nous voulons seulement demander que tu oignes frère Joseph et que tu lui aies donné la paix, dans son esprit. Et frère Billy Paul qui est là-bas, et béni, sois avec eux. Et nous te remercions, Seigneur, pour ces requêtes, Seigneur. Nous mettons ces requêtes devant toi, sachant que tu es mort au calvaire. Et nous le croyons, et ce n'est pas notre foi, c'est ta foi que tu nous as donnée, Seigneur. Pour que nous sachions, Seigneur, que chacune de ces requêtes sont déjà répondues, Seigneur. Et nous te remercions pour cela, Seigneur. Béni et prends ce service entre tes mains dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ.
Je réponds.
Aujourd'hui. Et je pensais, j'aime pas parler, qui plusieurs d'entre vous ne croiront pas, mais je pensais avec Frère Samuel lorsque Frère Samuel a dit, c'était tellement merveilleux. Et je pensais à introduire mon premier chant. Il vient de l'Est et de l'Ouest. Ce n'est pas que nous assemblons à une place. C'est que nous, un endroit, mais c'est comme ça. Ça semble à un endroit, c'est ce message. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest.
Ils viennent de l'Est pays. To feast with the roi. Mangez à sa table. How blessed these pilgrims are, beholding his sad visage, the other leper divine. Oh, bless his sepulchre, sa grâce, as royal.
Depuis que Jésus m'a libéré, je suis si heureux depuis.
Je ne cherche plus que la paix, l'amour. Son joug est si doux pour moi. Mon âme était triste et noire, mais maintenant c'est la joie, et je chante la victoire, car Jésus m'a libéré.
Gracious Heavenly Father,
Père Céleste, nous t'aimons et te remercions pour cette opportunité et privilège d'être ici, Père. Nous te remercions pour cette portion du service. Nous savons que tu... Nous prions seulement que tu multiplies ces dîmes et ces offrandes pour ton service, Seigneur. Prépare notre cœur, Seigneur, pour recevoir cette nourriture emmagasinée que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, une plus profonde révélation, nous prions. Nous demandons toutes ces choses dans le nom inatteignable du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Now I shout the victory. For Jesus has libéré.
Since Jesus
has led me free. Que Jésus m'a libéré. Je ne cherche plus que la paix, l'amour. Son joug est si doux pour moi. Mon âme était triste et noire, mais maintenant c'est la joie, et je chante la victoire, car Jésus m'a libéré.
Jesus is coming.
Oh, Jesus is coming soon. Alors, Ben fini, oh, si notre Seigneur, désormais maintenant, pour ceux qui sont sans péché, soyez-vous dans la joie, pour le chagrin, la paix, quand il viendra dans la grâce, où le rencontrerons.
Since Jesus has set me free, I'm as happy as I can be.
Je ne cherche plus de la paix, l'amour, son joug et son doux pour moi. Mon âme était triste et noire, mais maintenant c'est la joie, et je chante la victoire, car Jésus m'a délivré.
Jesus is coming.
Oh, Jesus is coming bientôt. Alors le will then be new. Si notre Seigneur venez maintenant pour ceux qui sont sans péché. Seigneur, dans la joie, pour le chagrin, la paix, quand il viendra dans la grâce, nous le rencontrerons.
Oh, when
they lead, traverseront, Seigneur, je veux être du nombre, quand ils lui traverseront. Oh, when they lead, traverseront, quand ils lui traverseront, Seigneur, je veux être du nombre, dans les élus traversent. Je suis pèlerin étranger dans ce monde de péché, et je vais cette cité dans les élus traversent. Dans les élus traverseront, dans les élus traverseront, Seigneur, je veux être du nombre quand les élus traverseront. Je sais, je mérite mon sauveur si ma vie est sans péché. Les portes du ciel s'ouvriront et les élus traverseront. Dans les élus traverseront, Seigneur, je veux être du nombre dans les élus traverseront. Tous rassemblés autour du trône et les portes refermées, je chanterai gloire et gloire dans les élus traverseront. Quand les élus traverseront, Seigneur, je veux être du nombre quand les élus traverseront. Je veux voir mon sauveur si ma vie est sans péché. Et pour que le ciel s'ouvrira et les élus traverseront. Les élus traverseront, Seigneur, je veux être du nombre, oh, les élus traverseront. Quel Dieu merveilleux nous servons. Les anges s'inclinent devant lui. Quel Dieu merveilleux nous servons. Oh, quel Dieu merveilleux nous servons. Les anges s'inclinent devant lui. Le ciel et la terre l'adorent. Quel Dieu merveilleux nous servons. Béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le roc de mon salut.
Oui, sois le Seigneur.
Amen. Thank you, Lord Jesus.
Merci, Seigneur Jésus.
At this time, we have a special.
À ce moment, nous avons un spécial pour la famille de Charlie.
Faith is the purchasing power for my need.
La foi est la force qui achète sur mes genoux.
That I will win. And when all fear is gone,
et toute la peur est disparue,
love could do no more.
Et lorsque l'amour ne peut rien faire,
sovereign grace,
la grâce souveraine entre en scène.
Faith is the purchasing power for my need.
La foi est la puissance d'achat sur mes genoux.
That I will win. And when all fear is gone.
Et quand toutes les craintes sont disparues.
No more,
et que l'amour ne peut plus rien faire.
Sovereign grace,
c'est là que la grâce souveraine entre en scène.
I am healed.
Je suis guéri.
I am healed.
Je suis guéri.
Parce
que la grâce souveraine est entrée en scène.
I am
je suis guéri.
I am
je suis guéri.
Grace
parce que la grâce souveraine est entrée en scène.
I have peace.
J'ai la paix.
I have peace.
J'ai la paix. Parce que la grâce souveraine est rentrée en scène. J'ai la paix. J'ai la paix. Parce que la grâce souveraine est rentrée en scène. La foi est la puissance d'achat sur mes genoux.
I walk in faith,
je marche dans la foi, sachant que je vais gagner. Et quand toutes les craintes sont disparues et que l'amour ne peut plus rien faire, c'est là que la grâce souveraine entre en scène. Je suis justifié. Je suis justifié. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Je suis justifié. Oh, je suis justifié. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Je suis rempli. Je suis rempli parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Je suis rempli avec ton esprit. Je suis rempli parce que la grâce souveraine est entrée en scène. La foi est la puissance d'achat sur mes genoux. Et je marche par la foi, sachant que je vais gagner. Et gagner lorsque toutes les craintes sont disparues, lorsque l'amour ne peut rien faire. C'est là que l'amour souverain entre en scène. Chantez-le avec moi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Je suis libre. Je suis libre. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Chantez avec moi, je crois. Je crois. Oui, je crois. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Je crois. Je crois ce message. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Chantez cela avec moi. Je fais sur play. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. J'appuie sur play. Chaque jour, parce que la grâce souveraine est entrée en scène. La foi est la puissance d'achat pour mes besoins. Je marche dans la foi, sachant que je vais gagner. Et lorsque toutes les craintes sont disparues et que l'homme l'amour ne peut plus rien faire, c'est là que la grâce souveraine entre en scène. Je vais gagner. Je vais gagner. Je vais gagner. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Je vais gagner. Je vais gagner. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. J'ai gagné. J'ai déjà gagné. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. J'ai gagné. J'ai gagné. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Nous sommes l'épouse. Oh, nous sommes l'épouse. Parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Chantons-le encore. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'époux, parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Nous sommes l'époux, nous sommes l'époux, parce que la grâce souveraine est entrée en scène. Merci Seigneur Jésus. Et lorsque toutes les craintes sont dissipées, et que l'amour ne puisse que rien faire. La grâce souveraine entre en scène. Louis soit le Seigneur. Seigneur te bénisse. Véritablement, la grâce souveraine est entrée en scène. Nous ne méritons pas cela. Mais cette grâce nous a donné la révélation de croire ce message et de l'écouter. J'ai un petit chant différent de ce que celui que j'ai présent. Ne pouvez-vous pas voir pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. C'est ce message. Ne pouvez-vous pas voir pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut la parole du Seigneur, la parole révélée qui fut prononcée par le prophète Malachie. Doucement, mais non. Pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète. Inclinons notre tête et fredonnons-le. Seulement. De tout notre cœur maintenant. Oh. le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. À ce moment, nous donnons le service à notre pasteur, le messager prophète de ce jour, à William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse.
Le roi. Mon frère me disait à l'instant qu'il avait ce mouchoir. C'était pour quelqu'un qui était en train de mourir de cancer. Donc, le bureau, dans un instant, deux requêtes. Je le ferai. C'est une requête. D'accord, monsieur. Et je les déposerai ici pour prier pour eux aussi. Et puis, quelqu'un vient de donner un mot. Il est venu. Il m'a donné un mot à ce sujet, au sujet des réunions pour demain. Vous qui êtes ici pour nous rendre visite, nous serions certainement heureux de vous recevoir à 14 heures. Demain après-midi, ils auront des réunions d'écoute de bande. Et si vous n'avez rien à faire, il y aura un message que vous n'avez jamais entendu qui sera joué. Et nous aurons une réunion de prière et nous nous attendrons simplement à un bon moment demain après-midi à 14 heures. Ce sera une période très occupée pour moi. Parce que demain, vous voyez, je dois poursuivre dimanche matin et aussi dimanche soir et demain soir aussi sur toute l'histoire de ces églises. Et maintenant, dimanche matin, si le Seigneur le veut, nous attendons un grand moment parce que le dimanche matin est notre jour de repos, en quelque sorte un repos après le samedi soir. C'est l'âge de l'église de Laodicée. Mais dimanche matin, je veux poursuivre la Vierge endormie et la résurrection, les 444 000. Et tout ce petit détail qui relie le message ensemble pour dimanche matin. Les réunions commenceront à 9h, c'est bien ça, pasteur, à 9h15, dimanche matin, que nous voulons aborder toutes ces choses comme que devient la Vierge endormie et que devient la Vierge sage, quand est-ce qu'ils reviennent, ou bien où apparaîtront les 144 000, et beaucoup de choses comme ça pour dimanche matin, pour essayer de lier tout cela, ce qui va tout à fait dans le sens de ce message. Et puis dimanche soir, nous prendrons les derniers grands anges et le message à Laodicée. Dimanche soir, si le Seigneur le veut. Et maintenant, alors demain après-midi, il y a un service ici, une réunion d'écoute de bande. Frère Jean vient juste de me dire que nous pourrions commencer à 14h demain après-midi. Et vous qui aimez venir écouter le message, priez autour de l'autel, vous qui cherchez le Saint-Esprit ou quelque chose comme ça, c'est un moment merveilleux. L'église est jolie et chaleureuse, ouverte et prête à tout moment pour tous ceux qui veulent entrer, prier et chercher le Seigneur. L'église est ouverte et vous attend. Et nous vous attendrons, disons-le comme ça, nous vous attendrons demain après-midi. À tout moment que vous voudrez venir dans l'église pour prier, eh bien, elle est toujours prête. Et s'il arrive que les portes soient verrouillées ou quelque chose comme ça, juste de l'autre côté de la rue, il y a mon frère qui est le gardien ici. Je pense que c'est 411, je crois que, ou 811, juste de l'autre côté de l'église ici, 811. Eh bien, sa femme a la clé, si jamais elle ouvre la porte et qu'elle est verrouillée, mais il la laisse ouverte peut-être le matin, il l'ouvre. Après la réunion, c'est fermé la nuit pour empêcher les enfants de courir partout, vous savez, et de briser les fenêtres et ainsi de suite. Vous savez comment sont les enfants, surtout en ce jour. Donc, nous la fermons pour cette raison. On déteste d'avoir à fermer la porte de l'église, même pour un moment. Peut-être que quand l'autre sera réparé, nous le ferons et ce sera alors différent. Quelqu'un pourra être là tout le temps pour que les gens puissent venir prier et chercher la guérison, chercher le Saint-Esprit. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, venez, restez ici. Restez toute la nuit si vous voulez. Restez jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Qui était-ce ici, il y a quelque temps, qui chantait « Dieu tout autour de moi et Dieu partout ». Je pensais que l'enlèvement avait lieu. Je regardais autour de moi pour voir si tout le monde était là. C'était vraiment merveilleux. J'apprécie cela. On pouvait rester pour entendre cela presque tout moment. Oui, monsieur, je viens d'arriver juste à temps pour entendre ça. Et j'ai raté tous les bons chants de ces réunions parce que je pensais que peut-être, oh, je suis tellement occupé. Vous savez, comme on sait, les gens arrivent par avion, par train, vous ne le savez jamais, vous voyez, parce que cela arrive par téléphone, il faut aller les voir, les rencontrer, prier pour eux partout, ça n'arrête jamais, et en plus d'essayer d'étudier, ça devient tout un problème. Mais nous sommes toujours heureux de rencontrer les gens et de faire ce que nous pouvons pour eux, parce que c'est notre, nous sommes un serviteur public du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple en ce jour. Et nous aimerions faire plus que ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas. Le ministre s'est précipité ce matin, il a fait une dépression nerveuse, il s'est mis à pleurer, un brave homme, et parce qu'il travaillait trop. Elle a commencé à se lever, sa petite fille était debout dans la pièce, elle s'était mise à tournoyer, elle portait un pyjama rouge, elle a dit que la dernière chose dont elle se souvenait était un petit point rouge qui tournait, comme ça, il est tombé inconscient, vous voyez, il l'a emmené d'urgence, donc c'est simplement trop de travail, vous voyez, vous vous souvenez, vous êtes un être humain et nous pensons que tout le fardeau repose sur nous, mais vous savez, Dieu a des serviteurs partout pour s'occuper d'une partie de cela, et donc nous faisons du mieux que nous pouvons. Mais c'est un ministre bienveillant essayant de faire tout ce qu'il peut en ces derniers jours pour son Seigneur. Certainement, et le Seigneur l'a délivré juste là, et il va très bien, il l'a ramené tout d'un coup à la normale. Très bien, il a repris son chemin en se réjouissant. Et oh, il s'est passé une grande chose aujourd'hui. Je ne veux pas commencer à parler de ces choses, mais vous savez, j'ai dit à ma femme, j'ai dit maintenant, il y a quelqu'un qui viendra là-haut. Ce sera un homme trapu, costaud, cheveux et yeux noirs. Et il ira cet écriteau et commencera à m'appeler. J'ai dit, parce que le Seigneur a un message pour lui, et j'ai ouvert la Bible, et j'ai dit, je vais mettre ces choses ici pour que tu vois que c'est exactement ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Il y a 8 ans, un Polonais de Pologne, élevé en Pologne, lors d'une réunion, il est venu sur l'estrade, et ils ont dit, où le Saint-Esprit l'a regardé, lui a dit, vous avez les idées embrouillées. C'est ce qu'il pensait que je l'avais dit, mais c'est le Saint-Esprit qui avait dit. C'est resté avec lui pendant tout ce temps. Il a finalement amené du Kansas City au bâtiment hier soir. Et puis il a vraiment été embrouillé quand il a entendu parler de ce baptême d'eau. Il est allé à son hôtel et le Saint-Esprit a dit, lève-toi maintenant et monte là-haut. Quelqu'un a voulu venir avec lui, mais il a refusé parce que dans la vision, il est venu tout seul. Voyez? Et donc, et lui, un gentleman, a commencé à lire l'écriture, s'est retourné. Et ma femme l'a appelé, je suis allé à la porte. J'ai dit, c'est lui. C'est lui, laisse-le venir. Il a dit, que dois-je faire? Après l'avoir vu, il a dit, maintenant je le vois. Il dit, je veux vous montrer ça pour que vous sachiez maintenant que vous voyez. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que vous veniez. Vous pouvez lui demander. J'ai dit, maintenant voici l'Écriture. Lisez-le ici avant de continuer. Eh bien, il est ici pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Donc, il est peut-être présent maintenant pour ce que j'en sais. Vous êtes là, frère? Un frère polonais. Ah, oui, dans le coin derrière, là. Il est là, oui. Levez-vous, levez la main pour qu'on puisse vous voir très bien. De voir le Saint-Esprit, ça arrive tout le temps. Beaucoup de gens pensent que les visions viennent seulement sur l'estrade. Oh, ça n'est même pas le début. Qu'en dites-vous, frère Léo? Ça arrive partout, vous voyez? Eh bien, ça représente une intime partie de ça et il ne se passe pas que très peu. Là dehors, ça se passe jour et nuit, vous voyez? Oui, demandez à ma femme, elle ou eux, mon voisin là-bas, frère Wood, et tous ceux qui sont là, oh là là, ce sont les petites choses ici, ce sont les grandes choses qui se passent là-bas. Or, et la moitié n'a encore jamais été dite. Oh! Je suis heureux pour cela, sachant que notre Seigneur vient bientôt et que nous serons avec lui pour toujours, pas pour toujours, mais pour l'éternité. Maintenant, si le Seigneur le veut, je crois que c'est le 18 dimanche dans une semaine. Dimanche dans une semaine, le 18, j'ai eu un combat terrible. Satan a essayé de me donner cette grippe qu'ils ont dans le coin. Je n'arrête pas de lui la rendre. Il me la rend, je lui la rends. Donc, j'ai eu un petit combat. Donc, nous allons probablement nous en débarrasser la semaine prochaine. Et puis, si le Seigneur le veut, le dimanche suivant, le 18, nous allons essayer de faire une réunion pour prier pour les malades parce qu'ils sont, les choses s'accumulent et nous essayons de prendre en charge les vraies urgences extrêmes aussi vite que possible et les heures, toutes les heures de la nuit et tout qui s'accumulent. Donc, le 18, nous allons avoir un service de guérison habituel. Et si certains de vos proches veulent qu'on prie pour eux, eh bien, amenez-les à ce moment-là. Maintenant, beaucoup de gens de Jeffersonville me disaient qu'ils partaient à temps pour arriver ici vers 5 heures. Ils disaient qu'ils n'avaient même plus de place pour leur voiture ou 6. Alors, j'ai dit, eh bien, voici nos frères en visite de partout, les gens de nombreux ministres. Il dit, ils se reposent sur l'enseignement de ceci. Nous essayons juste de faire ressortir les points principaux. Et puis, un peu plus tard, eh bien, nous l'aurons sous forme de livre, que vous puissiez le lire, et ce sera un peu... Il y aura des petits ajouts à cela, parce que le soir, vous remarquez, ces quelques dernières nuits, j'ai essayé de ménager la voie, vous voyez, parce que ce grand point culminant, c'est ce que je veux voir, là où la révélation de Christ se fait dans cet âge, vous voyez, de quoi il s'agit. Et maintenant, Avant que nous commencions à lire les Écritures, et je sais que demain c'est un jour de grande activité commerciale où nous devons tous aller faire nos courses le samedi soir, et nous devons les faire le samedi après-midi ou le samedi matin ou les deux, pour que nous puissions avoir le samedi soir libre pour venir à l'église. Nous allons donc essayer de sortir tôt ce soir pour que vous ne soyez pas trop fatigués demain pour le faire, et ensuite retourner à la réunion de l'après-midi avec les frères ici, avec les bandes, et aussi pour demain soir. Pouvons-nous nous lever un moment pour prier, si vous voulez bien? Je me demande, avant que nous prions, s'il y a quelqu'un ici qui a des requêtes spéciales de prière, si vous voulez simplement l'indiquer par une main levée. Dieu le voit. Maintenant, vous voyez si nous sommes dans un monde dans le besoin ou pas, frère? Je suppose que 95 ou 98 % de l'histoire a levé les mains. Maintenant, souvenez-vous, vous ne pouvez même pas bouger sans que Dieu le sache. Vous voyez, il connaissait vos intentions, il savait ce que vous demandiez. Courbons la tête. Bienveillant Père Céleste, nous nous approchons de ta sainteté ce soir, de ton trône, par ta promesse que tu as dit que tu entendrais, et que si nous croyons, tu nous donnerais ce que nous avons demandé. Et nous confessons toutes nos fautes. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne sommes dignes d'aucune de tes bénédictions. Nous sommes indignes. Nous sommes totalement indignes. Et nous ne venons que si nous étions dignes et que nous avions fait quelque chose de grandiose. Ô Père, quand nous regardons le calvaire, cela nous enlève toute la grandeur. Nous ne connaissons alors rien d'autre que Christ et lui crucifié. Puis quand nous voyons qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures pour notre justification, qu'il est revenu 40 jours plus tard sous la forme du Saint-Esprit pour demeurer avec nous jusqu'à ce qu'il apparaisse visible dans les cieux au temps de la fin. Et nous voyons que ce temps de la fin approche très rapidement maintenant. Nous sommes les gens les plus heureux, Seigneur, parce que tu nous as donné ce grand privilège. Je suis si reconnaissant, Père, que cet auditoire qui écoute, le cœur incliné, et écoute. Et Seigneur, je prie que tu sanctifies mes lèvres ce soir, et chaque soir, et chaque fois que je viens à ta chair pour parler à ton peuple, car, Seigneur, ne me laisse jamais dire quelque chose de mal. Tu as encore le pouvoir de fermer les bouches, comme tu l'as fait dans la fosse au lion avec Daniel. Et si jamais je devais dire quoi que ce soit qui ne serait pas selon ta volonté, ferme ma bouche, Seigneur, pour que je ne le dise pas. Contourne mes pensées. Mets-moi sur la bonne voie, Seigneur, où je ne dirai rien d'autre que la vérité. Car je suis conscient qu'en ce grand jour, ces gens s'attendront là-bas, attendront selon le ministère que je leur ai prêché. Si tu viens pour prendre n'importe laquelle de tes étoiles et tes anges, tes ministres, tes serviteurs, il faudra d'abord qu'ils soient éprouvés selon ces messages que nous avons prêchés ici. Tu les en rendras responsables, tes serviteurs. Maintenant, Père, je prie pour que tu laisses parler le Saint-Esprit et non l'homme. Circoncis notre cœur pour que nous puissions l'entendre. Je serai à l'écoute, Père. Je prie que tu guérisses les malades et les affligés. Tout ce dont les gens ont besoin partout, que ta grâce et ta miséricorde soient avec eux. Exauce chaque requête qui a été signifiée ce soir en levant la main. D'un bout à l'autre du pays, alors que beaucoup d'autres souffrent, même ceux que Saint-Michel représente et ses requêtes se trouvent sous ma main ici, que le Saint-Esprit réponde, Père, et guérisse les malades. Parle-nous maintenant par ta parole écrite, par le Saint-Esprit, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce soir, il fait un peu chaud dans l'église. Le grand âge de l'église de Laodicée approche. Et ce soir, nous abordons cet autre grand âge de l'église qui sera le cinquième âge de l'église. Nous avons pris le premier âge de l'église qui est Éphèse. Je pourrais relire ceux-ci au début, qu'ils étaient tous écrits, et j'aimerais donc les relire pour vous qui aimeriez vérifier vos notes. Le premier âge de l'Église était l'âge de l'Église d'Éphèse de l'an 55 à l'an 170 de notre ère. Paul était l'étoile et c'était le premier âge de l'Église. Leurs œuvres sans l'amour, c'était le reproche que Dieu avait. La récompense, c'était l'arbre de vie. Le deuxième âge de l'Église a été de 170 à 312. Irénée était le messager de l'époque. Et le reproche, c'était une personne. C'était des tribulations et une église persécutée, la récompense, la couronne de vie. Le troisième âge de l'église était Pergame. Saint-Martin était le messager de cette église. L'âge de l'église a été de 312 à 606. Le reproche, c'était une fausse doctrine. le mensonge de Satan, le fondement de l'autorité papale, et c'était le mariage de l'Église et l'État ensemble. La récompense, c'était de la manne cachée et un caillou blanc. Et le quatrième âge de l'Église, c'était Thyatire. Colomba était l'ange de cet âge de l'Église-là, le messager de 606 à 1520. Et l'âge de l'Église était la séduction papale, l'âge des ténèbres. C'était hier soir, vous savez, l'âge des ténèbres. Et là, la récompense, c'était le pouvoir de dominer sur les nations et l'étoile du matin pour l'ange. Maintenant, ce soir, nous commençons le cinquième âge de l'Église, qui est l'âge de l'Église de Sardes. S-A-R-D-S, Sardes. Et le messager de cet âge de l'Église était Martin Luther, qui devint plus connu par l'étudiant de la Bible ou par cet enseignant, ou plutôt les laïcs aujourd'hui. Et cet âge de l'Église a commencé en 1520 et s'est terminé en 1750. De 1520 à 1750, c'est l'âge de ce que nous appelons l'âge de la Réforme. Et le reproche était utilisant leur propre nom. La récompense pour le petit reste qui subsistait, c'était marcher devant lui dans un vêtement blanc et leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous commençons maintenant. Nous commençons maintenant au verset 1 du chapitre 3 de cet âge de l'Église. Message à Sardes, la période de la Réforme, un petit reste de croyants subsistait, presque plus personne. Maintenant, pour certains des nouveaux venus, je pourrais dire à ce sujet que pour que vous ne soyez pas en retard dans cela, c'est un peu rudimentaire. À un moment donné, nous allons arriver là où nous pouvons placer nos messages sur les reporter, venir dans l'après-midi, les arranger, je le ferai peut-être dimanche. Maintenant, chacun d'eux représente l'âge de l'Église, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceci commence avec Philadelphie. Et ceci ici représente le pouvoir pentecôtiste, ou une Église qui existait à la Pentecôte. C'était vraiment une grande Église au début. Mais ils ont laissé un esprit dénominationnel venir parmi eux, essayant de faire de l'Église une dénomination, ce qu'on a appelé les œuvres des Nicolaïtes. M'entendez-vous tous au fond? Oui, très bien. Les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, ce n'était pas encore une doctrine. Et puis, nous avons pris la parole et l'avons décortiqué ce qu'étaient les œuvres, ce qu'étaient les Nicolaïtes. C'est un nom qui nous est étranger, Nicolaïte. Alors, j'ai pris le grec et je l'ai décortiqué. Et Nico signifie conquérir, ou vaincre, ou renverser quelque chose. Nicolaïte, laïque, c'est l'Église, laïque. Nicolaïte, une œuvre qui essayait de renverser les laïcs et de mettre toute la bénédiction et le seul à lire la Bible, le seul à donner l'interprétation, serait l'évêque ou un quelconque grand dirigeant de l'Église. Nous découvrons ensuite, dans le deuxième âge de l'Église, qu'il commencerait à s'en écarter. Ceci est toujours la Pentecôte. Et ceci est la dénomination D. Or, dans le troisième âge de l'Église, Pergame, la Pentecôte était presque écrasée. Mais la doctrine dénominationnelle, elle est passée d'une œuvre ici jusqu'à une doctrine ici. Puis ils se mariaient vraiment ici. Ils se sont mariés. Ce groupe-ci, qui avait vaincu les groupes pentecôtistes, de la manière dont je dis cela, frère, ce sont les faits véritables. C'est d'après les écrits sacrés des récits historiques. Les livres du Concile de Nicée, le livre des martyrs de Fox et tous les grands écrits anciens. J'ai certains des plus anciens manuscrits qui soient. Et tout le monde, je dis ça sans, je ne dis pas que je suis pentecôtiste. Cela ne veut pas dire, quand je dis pentecôtiste, ça ne veut pas dire cette organisation du jour où nous vivons. Elle est aussi coupable que les autres. Mais je veux dire le véritable pentecôtiste, le vrai esprit de Dieu avec la doctrine originelle, avec les bénédictions originelles, avec les noms originels, avec tout ce qui est exactement comme cela a commencé au commencement, comme cela a été tout au long de la Bible. Bon, Alors, quand nous arriverons à cette tasse-ci, vous voyez jusqu'où s'élève la Pentecôte. Pouvez-vous bien voir là, tout au fond? Pouvez-vous le distinguer tout au fond là-bas? Très bien. Maintenant, voilà, hier soir, le grand âge dans lequel nous sommes ici. Constantin, C-O-N-S, je vais l'écrire. Lui, étant un païen, a demandé à ces chrétiens ici, ceux qui avaient la doctrine des Nicolaïtes, s'ils prieraient pour qu'ils gagnent une certaine bataille, eh bien, ils deviendraient chrétiens. Pendant qu'il était au combat, il a fait un songe qu'il devait, par une croix blanche qui lui a été présentée, il a dit, « Par ceci, tu gagnes. » Et c'est vrai. Alors, il a réveillé son armée et a peint sur leur bouclier une croix blanche. Et ça a été le lieu de naissance ou le début de l'ordre catholique, aujourd'hui appelé les Chevaliers de Colomb. Maintenant, Constantin, vous ne pouvez trouver nulle part dans les récits historiques qu'il s'est converti. Il n'était rien d'autre qu'un politicien malhonnête. Il avait dans son esprit l'idée d'unir son royaume et de le rendre fort. C'est ainsi qu'en lui-même, étant païen, il adorait les idoles, puis il a vu que la doctrine des Nicolaïtes s'était presque écrasée quelque part. Il a donc utilisé la même stratégie que nous avons découverte hier soir. Et Jésus a prédit cela 304 ans avant que cela s'accomplisse, qu'il enseignerait la doctrine de Balaam. Comment Balaam a trompé les enfants d'Israël, les a forcés à se livrer à l'impudicité et a pris des viandes offertes aux idoles, à manger des viandes. Or, nous savons que manger des viandes offertes aux idoles, ce que c'était vraiment, c'était adorer. En entrant, il se prosternerait devant des idoles, remettant les idoles dans l'Église chrétienne, tout comme Balaam l'avait fait à l'époque. Il avait amené Israël à se livrer à l'impudicité, à aller à cette grande fête de l'idole. Eh bien, Constantin a fait la même chose avec sa stratégie. Il a fait une église. Il a beaucoup donné au concile de Nicée et puis il a fait beaucoup de grands bâtiments qu'il avait. Il les a convertis en église. Puis il a fait un grand autel de marbre, l'a décoré d'or et de pierres précieuses. Sur le dessus, il a mis comme un trône. Et il a fait d'un homme la tête comme un... Il a alors été appelé un évêque. Et ils l'ont mis sur ce trône. Boniface III a été mis sur le trône. Non seulement il se promenait vêtu comme le paysan l'était, mais ils lui ont fait de belles soutanes et l'ont habillé comme un dieu. Et ils l'ont installé là-haut et l'ont appelé le vicaire. Le vicaire ou le vicarius filii. Cela signifie à la place du Fils de Dieu. Maintenant que celui qui a de la sagesse, dessinez, écrivez cela, vicarius filii. Et puis quand vous tirez une ligne au bas ici et que vous additionnez les chiffres, vous obtenez exactement ce que Dieu a dit que la marque de la bête était 666. Vous voyez, vicarius filii. Maintenant, je suis à la Rome et au Vatican, et la triple couronne, la juridiction sur l'enfer, le ciel et le purgatoire. Vous voyez, j'ai vu la couronne, j'ai vu le gilet, j'ai tout vu là-bas. Enfin, un jeudi après-midi à 15h, je devais rencontrer le dernier pape qui était là. Le baron von Blunger avait eu, puis il a dit, « Maintenant, quand tu iras, frère Branham, la première chose que tu dois faire, c'est de fléchir ton genou droit et d'embrasser cette bague. » J'ai dit, « Pas question, pas question. » Oublie ça. J'ai dit, je n'ai rien contre l'homme. Mais j'ai dit, il y a une chose, je donnerai son titre à un homme. S'il est révérend, c'est un homme, un évêque, ancien docteur. Peu importe, je saluerai volontiers un homme. Mais adorer un homme, je dois rendre hommage à un seul homme, Jésus-Christ. C'est le seul homme devant qui je m'inclinerai. J'ai dit, oublie ça, annulez tout ça, je ne le prendrai pas. Et donc, après être rentré chez moi, j'ai découvert qu'un autre grand américain, Teddy Roosevelt, avait fait la même chose. Il a refusé de le faire à cause, vous vous souvenez de ça dans l'histoire? Qu'il a refusé de voir le pape parce qu'il devait embrasser sa bague. Et il l'avait sur un gros orteil aussi, vous savez? Alors, non, c'est hors de question. Et donc, cependant, maintenant, comme Balaam, puis nous avons découvert hier soir, maintenant ici d'abord, avant de partir d'ici, ils ont consolidé l'Église et se sont mariés, ont eu des idées païennes et des idoles païennes qui étaient dans l'Église. Le Dieu de Jupiter, le Dieu du Soleil, le Dieu de Mars, le Dieu de Vénus, et toutes ces idoles des dieux, et il les a toutes prises de ces églises païennes, et il a pris Paul, Pierre, la Vierge Marie, tous ceux-là, et il a dit, voici votre vicaire, parce que Jésus a dit à Pierre, je vous donne les clés, et il est un successeur apostolique. C'est encore la doctrine catholique, même aujourd'hui. Ils ont érigé des idoles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit le culte d'idoles dans le christianisme, le soi-disant christianisme, pas le vrai christianisme, parce que les petits pentecôtistes, rappelez-vous maintenant, je ne dis pas, je n'ai pas dit baptiste, méthodiste, presbytérien, ils y sont dans chacun d'eux. Mais le véritable et authentique sujet de Dieu était la Pentecôte. C'était cela est et le sera toujours. C'est là que l'Église commence ici même, avec la puissance de la Pentecôte. Mais vous dites, est-ce vrai, frère Branham? Je vous demanderai de prendre les livres d'histoire et de regarder tout au long du temps jusqu'ici et de découvrir si chacun de ces vrais enfants de Dieu se sont accrochés à cette bénédiction de la Pentecôte, le parler en langue, interpréter les langues, accompagné de signes et de prodiges, baptisés au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les apôtres ont fait, ils l'ont fait aussi tout au long du temps. C'est la raison pour laquelle, en lisant l'histoire, j'ai pris Paul et Irénée et jusqu'à Saint-Martin, Colomba, chacun de ces hommes-là, jusqu'à cet âge-ci, ils avaient des signes et des miracles. Très bien. Il a dit qu'il était, le micro était un peu, c'est mieux. Très bien. Non, il secoue la tête, il n'entend plus rien maintenant, Billy. Très bien. Pouvez-vous, c'est maintenant, vous m'entendez bien? Maintenant, c'est comment? Est-ce que c'est mieux? Oui. Tout le monde dit très bien. Paul, c'est un point contre toi. Très bien. OK. Bon, dans cet âge-ci, lorsqu'il a fait cette grande chose et qu'il a établi cet homme ici comme évêque universel sur toutes les églises, il leur a donné beaucoup d'argent et ainsi de suite, et qu'il leur a promis et qu'il a uni l'Église et l'État et a laissé l'Église contrôler l'État. Ça l'a fait de lui un grand homme. Il y a donc exactement ce que Constantin a fait. C'est exactement la même chose que nous avons trouvé dans cette autre église. Ce que Dieu a dit qu'au temps d'Élie, ils ont laissé cette femme Jézabel assujettir ses enfants. Cela s'est passé pendant l'âge des ténèbres. Et regardez où en est la Pentecôte maintenant. Oh là là! C'est totalement noirci. Et pendant près de 1000 ans, cela... d'environ 500 à 1500 ans. Oui, c'est-à-dire de 606 à 530, 520. Ce sont des chiffres exacts, mais juste sur 1000 ans, ils vont des persécutions sanglantes. Lisez l'histoire. Maintenant, un catholique vous dira que l'Église chrétienne était, il était l'Église chrétienne. Ils sont l'Église chrétienne dénominationnelle. Mais les véritables pentecôtistes ont été chassés, tués, assassinés et mis à mort par les papes et les évêques et ainsi de suite, aussi sanglants que cela puisse être. Et un jour, cela me coûtera la vie, vous voyez, de dire cela. Mais c'est une chose sûre, je sais où je vais. Maintenant, je sais. Il nous ruisselle simplement du sang. Mais maintenant, l'heure approche de ce que l'on voit selon ce qui se passe dans les nations, que ça ne sera pas très long. Ne reculez jamais sur cela. C'est la vérité, tenez-vous-y. Mélangez votre sang comme eux ce jour-là. Maintenant, ici, voyez ce qui s'est passé. Puis ici, la doctrine Jézabel s'infiltre. Jézabel était une femme païenne qui, Achab, a fait la même chose que Constantin. Il a épousé cette femme afin de renforcer son royaume et a apporté l'idolâtrie en Israël, exactement comme Constantin l'a fait là-bas. Et la Pentecôte avait presque complètement disparu. Et maintenant, Dieu suscita Martin Luther. Je veux que vous remarquiez à quel point les choses sortent d'ici et s'effacent presque complètement, puis commencent à peine ici et viennent à nouveau ici. Et je l'ai en quelque sorte marqué parce que c'est une grande leçon pour dimanche soir, si Dieu le veut. Maintenant, je crois que nous avons rattrapé l'endroit où nous sommes. Maintenant, c'est l'âge des ténèbres, juste ici, de 1500, de 606 à 1520. Juste ici, je vais mettre ça ici, que vous, 606 à 1520. Ça, c'est l'âge des ténèbres. Cette église, juste ici, l'âge des ténèbres. Cette église à laquelle nous sortons maintenant est l'église luthérienne. Or, la plupart de ceux qui étaient là-bas, ces gens sont morts. Dans ces hommes comme Irénée, Martin et Colomba, ils sont disparus. Maintenant, prenez n'importe qui veut faire des recherches dans n'importe quelle histoire que vous voulez. Si c'est une histoire authentique et lorsque vous disent que Saint-Patrick était catholique, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Saint-Patrick a protesté contre l'Église catholique, ne s'est jamais rendu à Rome et a refusé fermement leur doctrine. C'est tout à fait vrai. Allez au nord de l'Angleterre ou en Irlande aujourd'hui et vous verrez la même chose. Saint-Patrick était un homme de Dieu. Mais Saint-Patrick, quand il est dit qu'il a chassé tous les serpents d'Irlande, c'était une légende. Combien d'entre vous ont déjà lu, entendu parler de Guillaume Tell qui a tiré une pomme posée sur la tête de son fils? C'est une légende catholique. Il n'y a jamais eu un mot à ce sujet. J'étais juste là où c'était censé arriver. C'est écrit là-bas, une légende. Ça n'en est pas une. En Suisse. Billy et moi, étions au bord du lac des quatre cantons. Au bord du lac des quatre cantons, on a fait la chose. Il a tiré sur un homme, c'est vrai, mais pas une pomme posée sur la tête de son fils. C'est juste une légende. Des superstitions et tout ça, ça n'est jamais arrivé. Ils n'ont aucune trace de ce qu'ils ont fait, ni de l'endroit où cela s'est produit, qu'ils n'ont jamais fait. Et cela la renverse vraiment. Il dit que ce qu'il en était, mais ce n'est pas l'histoire qui dit qu'il l'a fait, voyez? Alors maintenant, ici, dans l'âge de l'Église, c'est là que cela a presque disparu, complètement disparu de l'existence. Maintenant, dans cet autre âge, vient l'âge de la Réforme. Maintenant, ces choses ici, après presque 1000 ans de ténèbres et d'obscurité, de disparition et ainsi de suite, l'Église a perdu de vue Irénée. C'était un grand homme, un homme saint. Il en était de même pour des centaines de ces précieux saints qui ont donné le sang de leur vie aussi librement qu'ils le pouvaient, debout dans cette arène, pour la cause du Christ, pour le baptême au nom de Jésus-Christ, pour parler en langue, pour la résurrection de Jésus-Christ vivant dans la vie et sa présence divine, alors que les gens qui se disent chrétiens les persécutaient. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Oh, c'est une légion démonisée de l'enfer qui ne mérite je ne sais pas quoi. Elles sont venues comme ça, elles se sont formées et façonnées, elles se disent prophétesse, interprète divine de la parole, personne d'autre qu'elle ne peut la comprendre. Elle se fait appeler ainsi, mais c'est une menteuse, voyez-vous? Voilà, vous voyez, mais en même temps, il avait son ange là, avec la vérité reviendra toujours à ceci, voyez? Revenez toujours à l'original, parce que Dieu ne change jamais cela. Maintenant, et nous avons aussi appris hier soir, avant que nous changions de sujet, afin que ce soit bien établi dans notre cœur, non seulement elle, dans le type Jézabel, elle avait une fille. Vous vous souvenez de ça? Et Apocalypse 13 dit que cette église apostate, Rome, avait des filles. C'était la mère des prostituées, est-ce vrai? Jézabel avait une fille. Et qu'est-ce que Jézabel a fait avec sa fille? Voyez comment toutes ces choses, ces types et ces ombres, Jézabel s'est assurée que sa fille épouse Joram, qui était le fils de Josaphat en Judée. Israël était divisé à ce moment-là, comme ceci. Ici, c'est Jérusalem, ici, et ici, c'est la Judée, ici. Eh bien, Achab était ici, et Joram était ici. Très bien, Jézabel l'a fait conquérir. Tout Israël a pris des idoles, puis tout sauf Élie, ce petit groupe de fidèles. Très bien. Joram était de ce côté-ci, sur Juda, et quand elle eut son bébé par Achab, elle a pris cette fille et l'a mariée au fils de Joram, ou au fils de Josaphat, qui était Joram, et elle a fait entrer l'idolâtrie dans Juda. Et elle a placé des autels païens à Jérusalem. C'est exactement ce que l'Église catholique a fait. Elle a fait ressortir sa doctrine de dénomination et ainsi de suite et a retranché le Saint-Esprit de l'Église ici avec sa fille luthérienne, méthodiste, baptiste, pentecôtiste et ainsi de suite. C'est exactement ce qu'elle a fait. La Bible dit qu'elle est la mère des prostituées. Maintenant, regardez simplement dans les Écritures. Si vous voyez quelque chose de différent dans l'Écriture et l'histoire qui dit exactement la même chose, venez me voir comme des gentlemen, vous voyez? C'est vrai, il n'y en a pas. Ces dénominations sont les choses les plus empoisonnées que nous ayons jamais eues dans le protestantisme. Ils essaient de faire gouverner l'Église par des hommes, une autre image comme celle qui se trouve sur ce trône, l'évêque en chef, les surveillants généraux de la Pentecôte. Eh bien, maintenant, voyons voir quelle est sa doctrine. Oh, il a baptisé au nom de Jésus, il ne peut pas entrer là-dedans. Non, monsieur, mon frère, vous l'avez rejeté, ça aussi c'est rejeté. Je veux vous faire comprendre que personne d'entre vous n'aille à cette réunion là-bas, il le rejette. Peu importe à quel point vous êtes malade, restez à l'écart, peu importe ce que Dieu fait. Si vous ne regardez pas à travers nos lunettes, pourquoi vous ne voyez pas du tout? Il a fait une image à bête, et l'image avait la vie pour parler. C'est tout à fait exact. Vous ne pensez pas qu'il peut parler, rencontrez-le un peu, une fois. Vous pouvez certainement avoir des ennuis. Je me souviens qu'à Tucson, en Oklahoma, j'étais en train de me mettre dans un sale pétrin. Cette dénomination a commencé à brasser là-bas. Et je me suis installé dans cet immeuble un jour et j'ai eu une vision. J'ai vu un joli petit chaton allongé sur un oreiller de soie. Et il était le plus mignon. Et je suis allé là-bas et j'ai eu peur des chats. Et je suis allé le flatter. Il faisait... Vous savez comment ils font ce drôle de bruit, vous savez, je l'ai flatté, j'ai dit « joli petit chaton », et il a fait rond. Tout allait bien, vous savez, je regardais à l'arrière de son oreille, il était écrit « chaton pentecôtiste ». Je me suis dit « n'est-ce pas étrange ?» Et j'ai dit « ça doit être une vision ». Et quelque chose a dit « tant que tu le flatteras dans le sens du poil, ça va. Mais maintenant, si tu veux voir de quoi il est fait, flatte-le à rebrousse-poil. » Voyez. Alors, quand je l'ai flatté, ses yeux verts se sont exorbités. C'était un monstre qui se tenait là, qui me crachait dessus tant qu'il pouvait. Voyez, flatte-le juste un peu à rebrousse-poil. Dites-lui que son baptême au nom de Père, Fils, Saint-Esprit vient du diable et que l'Église catholique. Et regardez bien ce qui va se passer. Voyez, ses poils s'érissent. Je suis descendu, j'ai dit à Frère Jim et aux autres, au Frère Léo, j'ai vraiment eu une véritable vision des dénominations pentecôtistes, là. Et maintenant, au troisième chapitre, commençons par Sardes est une église morte. Elle est morte car elles ont été tuées pendant cette période. Juste encore un peu de vie. Nous allons voir dans quelques minutes ce que c'était dans un tout petit moment. De 1520 à 1750, c'était cet âge de Sardes. Et l'étoile ou l'ange, l'étoile qui était dans sa main, c'était l'ange ou le messager de cet âge de l'église. Est-ce bien compris que l'étoile était un ange et un ange, c'est un messager pour cet âge-là? Très bien, très bien. Bon, nous avons terminé avec le concile de Nicée. Il y a trouvé la mort quand tout en est arrivé au pouvoir et à la gloire, l'Église et l'État réunis. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que la leçon d'hier soir mentionnait au sujet de ce que pensaient beaucoup de ces gens? Le millénium était commencé. Et tout, amener le millénium sans la venue de Christ, voyez? La venue de Christ a introduit le millénium, premièrement. Et à cette époque, il avait, si vous consultez l'histoire, vous découvrez qu'ils avaient le faux Jésus sur la scène et tout le reste, vous voyez. Et ils ont même pensé que le pape, c'était Jésus, en l'appelant vicaire au lieu du nom du Fils de Dieu. Oui, le grand Dieu Saint, quelque chose du genre placé là. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que quand Jésus va venir, avant qu'il ne vienne, il s'élèvera de faux prophètes. Et il célébrera de faux Jésus. C'est vrai. Voici ici. Mais laissez-moi faire descendre ceci dans votre cœur. Il n'y aura pas de Jésus posant un pied sur cette terre tant que l'Église n'aura pas été enlevée et ne soit partie. Maintenant, gardez ça dans ça à l'esprit, parce qu'il y aura de faux Christ qui célébreront, mais Jésus ne sera pas ici sur la terre, car au son de la trompette, il ne vient toujours pas. Nous le rencontrerons dans les airs. L'Église est déjà partie. Et quand Jésus apparaîtra, ce sera le grand retour. Les gens des nations vont à sa rencontre dans les airs. C'est ce que dit l'Écriture, vous voyez? Ils vont à sa rencontre dans les airs, puis nous montons. Et Jésus, en aucun moment, il ne pose le pied sur terre tant que l'Église n'a pas été enlevée et qu'elle n'est pas rentrée à la maison et que le repas des noces n'est pas terminé dans les ciels. Alors, il revient pour le reste des Juifs. Alors, ça en était terminé. Le concile de Nicée, l'Église avait été sous le règne du pape depuis presque 1000 ans. Ils avaient tué tous ceux qui n'étaient pas en accord avec eux. C'est vrai. Soit vous étiez sous sa tutelle, soit vous étiez tué, comme Jézabel l'a fait avec Israël. Le Saint-Esprit n'en avait laissé que très peu pendant cet âge. Comme il lit le reste d'Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Balaam. Si vous voulez le lire plus bas, c'est 1 Roi, le chapitre 19, au verset 18, quand Élie se tenait là-bas dans la grotte et qu'il a dit, « Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, et ils ont tout fait, et je suis seul, et je suis le seul qui s'est échappé. » Alors Dieu lui a dit qu'il en avait plusieurs centaines qui n'avaient pas encore fléchi le genou devant Baal parmi les laïcs là-bas. Alors donc, Sardes, nous allons débuter. Le mot Sardes au verset 1, le mot sard en terme anglais signifie, si vous voulez le chercher, signifie celui qui s'est échappé. Le vrai sard, c'était celui qui s'est échappé. C'est ce que ça veut dire. Très bien. Celui qui s'est échappé. Maintenant, vous voyez, et celui qui s'est échappé. Nous allons maintenant commencer au premier. Nous allons l'appeler l'âge de la réforme. Et c'est un nom très pertinent pour cette réforme, si nous devions l'appeler ici, parce que c'est la réforme, c'était pour ceux qui s'étaient échappés en s'en éloignant et en fuyant loin de ça. Prenons maintenant le premier verset. À l'ange de l'Église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Maintenant, la salutation. Maintenant, les sept esprits sont les sept esprits et les sept étoiles. Les sept esprits, ce sont les anges qui sont allés vers les étoiles, ce sont des messagers. Sept esprits, à sept reprises, le Saint-Esprit a oint un messager qui a été une étoile en son jour. Un esprit est éternel et l'étoile a pour but de refléter la lumière dans les ténèbres de ces âges de l'Église. C'est ce que représentent les chandeliers et les étoiles. L'ange, l'esprit, c'était celui qui allait vers l'étoile pour refléter la lumière du Saint-Esprit par cette étoile pour cet âge de l'Église. Pour que vous puissiez savoir, vous vous demandez qui sont ces sept esprits? Ce sont les sept messagers des sept âges de l'Église, voyez? Bon, et chaque fois que l'étoile est entrée en scène, le Saint-Esprit est descendu et a oint cette étoile et l'a gardée exactement pareille à la première. Eh bien, permettez-moi de vous le confirmer. Paul a dit, si vous voulez comprendre de quel genre d'étoile il s'agissait, car rappelez-vous, Satan est aussi une étoile, l'étoile du matin. Eh bien, remarquez, Paul a dit, croyez-vous qu'il était l'étoile de l'Église d'Éphèse? Il a dit, eh bien, si vous voulez savoir si c'est vrai ou non, dans Galates 1:8, Paul a dit, il parlait qu'il viendrait un temps où il y aurait des loups cruels et ainsi de suite. Il a dit, quand un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile. Là, il savait que cet homme arriverait tel un ange en tant que vicaire. Il a dit, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Pas vrai? C'est Paul qui leur a ordonné de se faire rebaptiser. S'il n'avait pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, venez vous faire rebaptiser afin de recevoir le Saint-Esprit, Actes 19, 5. C'est aussi celui qui imposait les mains aux gens et les dons. Et il mettait l'Église en ordre en opérant des miracles, la guérison divine, le parler en langue, l'interprétation des langues. Pas vrai? 1 Corinthiens 12, voyez-vous ce que Paul a dit? 1 Corinthiens 12, et vous trouverez ça. Il l'a placé dans l'Église. Dieu a placé dans l'Église ses grands dons et Paul les a établis. Et il les a établis pour qu'ils puissent œuvrer pour la gloire de Dieu. Paul a dit cela. Ainsi, si quelqu'un, peu importe la dénomination à laquelle il appartient, essaie de vous dire que le temps du parler en langue, l'interprétation des langues, la guérison divine et le miracle et le témoignage du Saint-Esprit comme le baptême, qu'il soit anathème. Car le même esprit qui était sur Paul sera le même esprit qui a été envoyé à l'âge de l'Église suivant, puis le même âge de l'Église suivant, et encore le même jusqu'à la fin des âges de l'Église. Le même esprit, le Saint-Esprit, voyez-vous cela? Si vous le remarquez, c'est aussi écrit ici, celui qui a écrit le savait. Regardez, les sept esprits, regardez bien, E majuscule, Saint-Esprit, il n'y en a qu'un, oui. Le même esprit venant sept fois aux sept âges de l'Église et portant la même lumière. Vous saisissez maintenant? Sept âges de l'Église, à sept reprises, le Saint-Esprit porterait ce même message. Il a été déclaré que ce serait une malédiction pour toute personne qui tenterait d'en changer quelque chose. Maintenant, voyons si cela s'accorde avec la révélation de la chose entière. Il a dit, si quelqu'un retranche ou y ajoute, la même chose sera prise, sa part du livre de vie. Toute la chose est complètement incluse, alors. Il n'y a donc pas de place pour en sauter, pour en ajouter, vous voyez, parce qu'il en est ainsi. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que l'Esprit a dit, c'est ce que les Églises ont dit. Maintenant, si vous essayez de faire entrer de force n'importe quelle autre sorte de doctrine que ce que Paul a enseigné, c'est faux. La Bible est exacte. Sa vie, Jésus a dit, je retrancherai sa part du livre de vie. Maintenant, vous dites, quelle partie du livre de vie? Il y a beaucoup de gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui vont assurément échouer. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette leçon l'autre soir? L'avez-vous saisi? On peut aborder cela, ça ne semble pas être le bon moment, ça ne semble pas, vous voyez. Judas Iscariote était le fils de Satan. C'était un démon manifesté dans la chair. La Bible dit qui il était. La Bible dit qu'il est né le fils de la perdition. Regardez ça juste une minute. Maintenant, sur ceci, il y avait Jésus. Ici, à sa droite, il y avait le brigand. Et là, celui qui était à sa gauche. Et là, quand Jésus était le Fils de Dieu, pas vrai? Bon, certaines personnes ne voient que trois croix, mais il y en avait quatre. Quatre croix. Eh bien, qu'est-ce qu'une croix? C'est un arbre, pas vrai? La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu à un arbre. Et il est devenu malédiction pour nous. Il a été pendu à un arbre. Il avait été coupé, mais c'était un arbre. Pas vrai? Très bien. En bas, au pied de la colline, il y en avait un autre. Judas s'était pendu à un sycomore. Pas vrai? Regardez. Ici se trouve le Fils de Dieu. Il est venu du ciel. Il retourne au ciel. Et en emportant avec lui le pécheur qui s'est repenti. Ici se trouve le fils de la perdition. Il vient de l'enfer. Il retourne en enfer en emportant avec lui. Si tu es le pécheur qui ne s'est pas repenti. Voyez? Le pécheur qui ne s'est pas repenti. Si tu es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Celui-ci a dit, nous avons, il prêchait ce prédicateur de l'Évangile. Nous recevons ce que nous méritons. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qui était-ce? C'était un petit peu hier soir ou le soir d'avant. Ceci est l'Abel de Dieu. Voici le Caïn du diable. Comme Caïn a tué Abel à l'autel, Judas a tué Jésus à l'autel. C'est vrai, la fumée n'a fait que s'élever là-bas en Éden et elle se pose ici à nouveau. C'est tout à fait ça. Oh, cela est glorieux, ce vieux chemin. Ce vieux chemin béni, tout simplement rempli de gloire. Eh bien, maintenant, nous trouvons ici. Excusez-moi, que cette église de Sardes à l'ange, il a dit les sept esprits. Celui qui a les sept esprits à l'ange de l'église de Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Et maintenant, combien savent que Dieu est un seul esprit? Certainement, Dieu le Saint-Esprit, Dieu Père, Saint-Esprit, la même personne, parce que Marie a conçu par le Saint-Esprit. Bon, mais Dieu a fait usage de ce Saint-Esprit à sept reprises pour l'Église, en différentes lumières évangéliques, les sept âges de l'Église. Vous saisissez? Sept âges de l'Église. Maintenant, vous direz, Dieu ne fait pas ça. Oh oui, mon frère, regardez, il a utilisé l'Esprit d'Élie. Et quand Élisée est parti, il y est parti, Élisée en a reçu une double portion. Et quand Élisée est tombé malade et qu'il est mort, cela est revenu à nouveau sur Jean-Baptiste. C'est la même chose qui le poussait à agir exactement comme Élie agissait, vivant dans le désert et ainsi de suite, pas vrai? Et c'est annoncé qu'il reviendra à nouveau dans les derniers jours, vous voyez? Dieu utilise l'Esprit comme ça et ainsi de suite. Et Jésus était loin du Saint-Esprit et il faisait le bien sur son chemin, pas vrai? Et le même Saint-Esprit qui était sur Jésus est revenu directement dans l'Église le jour de la Pentecôte. Il est ensuite revenu directement dans l'âge suivant, puis celui qui a suivi, et l'autre après. Et qu'est-ce que c'est? Le même et l'unique Saint-Esprit, ne le voyez-vous pas? Dieu au-dessus de nous, dans le Père, Dieu avec nous, dans le Fils, Dieu en nous, dans le Saint-Esprit. Ce sont trois fonctions et non trois dieux, voyez? Et ces trois titres, Père, Fils et Saint-Esprit, appartiennent à un seul nom, Jésus-Christ. Très bien. Observez bien, alors que nous continuons, le Saint-Esprit a dit celui qui tient, en d'autres termes, tient ses messagers qui seront loin du Saint-Esprit avec ce même Saint-Esprit dont Paul, le premier a été oint, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, ils sont tous dans sa main droite. Oh, tirant leur puissance et leur lumière de sa main droite. Maintenant, il est monté dans les hauteurs et Philippe a dit, quand il est en train de mourir, où Étienne a dit, je vois les cieux ouverts et le Jésus debout à la droite de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu a une très grande main droite et que lui, il se tient là, mais la main droite représente plutôt la droite de puissance et d'autorité. Ce corps que Dieu a créé, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, mais je le ressusciterai et le placerai sur l'autel à la place de l'Esprit. Observez, quand ils l'ont vu, lui placé sur l'autel avec le livre dans sa main, et aucun homme sur terre ou sous terre ou nulle part ailleurs ne pouvait ou n'était même pas digne de regarder le livre, mais l'agneau qui le tenait avait été immolé depuis la fondation du monde. Il y a longtemps, au commencement, quand il avait pensé à ce corps racheté, pour la première fois, il s'est approché, il a pris la main droite de celui qui était assis sur le trône et il s'est assis. Amen. Vous y êtes. Ce sont les Écritures. C'est tout simplement merveilleux. Vous voyez? Maintenant, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres temps, j'ai pris dans mon corps le Saint-Esprit. J'ai vaincu toutes les choses du monde dans la tentation par le Saint-Esprit et j'ai pris le contrôle et en lui habite corporellement la plénitude de Dieu. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été remis entre mes mains. Il a dit tout pouvoir, alors Dieu est impuissant s'il s'agit d'une autre personne que lui. Car la Bible dit, Jésus a dit après sa résurrection, tout pouvoir dans le ciel et sur terre, tous deux, a été remis entre mes mains. Et Jésus viendra du ciel avec 10 000 fois 10 milliers de saints. Et la Bible dit qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Où se trouve Dieu, ce grand gaillard, alors? Oui, il est en Christ, c'est sûr. Et comme nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit, comme lui l'a été, nous nous assoirons avec lui lorsqu'il prendra le trône terrestre de David et nous régnerons avec lui comme il l'a fait là-haut. Amen. Avec puissance et autorité sur toute la terre. Et ils sont la terre gémie, attendant la manifestation des fils de Dieu, qu'il soit manifesté le Fils de Dieu. Car après tout, ce monde n'a pas été donné pour que Dieu en prenne le contrôle. Remarquez combien la chose est exacte. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. C'est son domaine. Tout sur terre est assujetti à l'homme. Par le péché, il est tombé. Par la puissance rédemptrice du Christ, il revient à nouveau. C'est vrai, parce que la terre appartient à l'homme. Elle lui a été donnée et il gouvernait sur tout. Et toute la nature gémit, attendant le moment où les fils de Dieu seront manifestés à nouveau. Oh là là, oh là là. La manifestation des fils de Dieu. Maintenant, on ferait mieux de mettre ça de côté tout de suite. Mais les messagers sont dans sa main droite, attendant où qu'il les envoie et qu'ils diront la même chose. Car le Saint-Esprit qui était en Christ, oh, l'Esprit qui était en Christ, quand il est parti, il a dit un peu de temps et le monde, cosmos, le mot grec qui signifie l'ordre mondial, pas la terre, le monde, l'ordre mondial. Ne me verra plus, dénomination ou quoi que ce soit d'autre, ne me verra plus. Mais vous me verrez, l'Église, le croyant, car je, le pronom personnel est juste, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous le voyez? Alors, si c'est le Saint-Esprit de Christ qui est venu le jour de la Pentecôte pour faire ces choses, c'est le Saint-Esprit de Christ qui a été rejeté ici, le Saint-Esprit de Christ qui tient bon encore ici, le Saint-Esprit de Christ qui tient encore bon ici, jusqu'à ce jour, jusqu'à la fin du monde. Le même Saint-Esprit qui a rempli Paul avec le Saint-Esprit pour faire ce qu'il a fait, remplit tellement celui-ci, Irénée, avec le Saint-Esprit, remplit tellement Martin avec le Saint-Esprit, remplit tellement les autres du Saint-Esprit, il nous a tellement rempli, vous et moi, du Saint-Esprit. C'est une bénédiction de la Pentecôte qui passe d'un âge de l'Église à l'autre, Alpha et Oméga, la fin et le commencement, et tout, la racine et le rejeton de David, l'étoile du matin, la rose de Saron, le lys de la vallée, et quoi d'autre? Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient, l'Alpha, tout, le tout en tout. Oh là là, ça me donne le goût de chanter un chant. Oh, qui dis-tu que je suis? A dit Jésus. D'où dis-tu que je viens? Oh, connais-tu mon Père? Ou peux-tu dire son nom? Il a dit, je suis Alpha Omega, le commencement et la fin. Je suis toute la création et Jésus est son nom. Je suis qui parla à Moïse dans le buisson de feu ardent. Je suis le Dieu d'Abraham, l'étoile brillante du matin. C'est vrai. Je suis la rose de Saron. Oh, d'où dis-tu que je viens? Je suis toute la création et Jésus est son nom. Toute la famille des cieux et de la terre liée à ce seul universel, béni, rempli du Saint-Esprit, descendu, nommé par le Saint-Esprit, annoncé par le Saint-Esprit, né par le Saint-Esprit. Non, c'est vrai. Dieu l'a donné à toute la famille du ciel et de la terre. Et tout ce qui s'y trouve, tout genou fléchira devant ce nom, car il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés. Pas peut-être, devrait être, mais doivent être sauvés. Oh, j'aime ça. C'est tout simplement bon. Très bien. Dans sa main droite, est-ce que vous voyez maintenant? C'est une église de la Pentecôte. La puissance, les signes, les prodiges s'opérant tout le long du chemin. Maintenant, nous avons traversé l'âge des ténèbres où cela est presque réprimé. Mais prenons maintenant ce verset 2. Oh, je crois qu'on va simplement continuer encore un petit peu avec le premier. Je connais tes œuvres. Tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort. Prenons donc l'âge de l'église suivant ici, vous découvrez. Et tu n'as pas renié mon nom. L'église suivante, pas renié mon nom. Mais dans cette église-ci, tu as un nom. Regardez bien ici. Cette église a gardé son nom. Cette église a gardé son nom. Cette église a gardé son nom. Et cette église a traversé l'âge des ténèbres et rien n'a été dit à ce sujet. Quand ils sont revenus à la vie de ce côté, le premier petit groupe s'est échappé. Quand Luther les a fait sortir, tu as un nom d'être vivant, mais tu es mort. Eh bien, quel nom ont-ils utilisé après avoir délaissé le nom de Jésus? Père, Fils, Saint-Esprit. Et cette chose-là n'existe pas. C'est une théologie morte. Une théologie morte. Dites-moi, est-ce que Père est un nom? Combien y a-t-il de Père ici? Levez la main. Lequel d'entre vous a un nom, Père, Fils? Et des humains, voilà. Voilà ce qu'il en est. Ce n'est pas, son nom n'est pas Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. C'est le Saint-Esprit. Le nom, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit est un titre. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, vous voyez, là, c'est tout aussi dénué de sens que la filiation éternelle. La filiation éternelle, ça n'existe pas. Un fils a un commencement. Lorsqu'il naît, l'éternel n'en a jamais eu. Une telle chose n'existe pas, comme je l'ai dit l'autre soir, qu'un enfer soit éternel. Comment peut-on avoir un enfer éternel? L'enfer aurait toujours existé. Alors, la Bible dit, cela a été créé pour le diable et pour ses anges. L'enfer aurait toujours existé s'il y en aurait toujours eu un. Il faudrait qu'il y en ait eu un au commencement. Et qui s'en est servi d'abord alors qu'il était Elohim, celui qui existe par lui-même et qu'il n'y avait rien d'autre? Alors, il fallait que l'enfer soit là avec lui. Voyez? L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et tous les méchants y seront jetés. C'est tout à fait vrai. Ils seront punis pour peut-être 100 millions d'années pour ce qu'ils ont fait. Mais il viendra un temps où ils connaîtront la seconde mort. Il ne restera rien de ceci. Tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Alors, lorsque nous recevons la vie éternelle, nous recevons une part de cette lumière cosmique qui était là avant même qu'il y ait une molécule. Oui. Cette lumière de Dieu vient dans notre cœur et elle nous éclaire afin que nous voyons Jésus. La Bible dit, nous ne voyons pas toutes choses, mais nous voyons Jésus. Donc, il a dit, je sais que c'est celui, je suis celui qui a les sept esprits et qui les envoie aux sept églises. Je connais tes œuvres et tout ce qui s'y rapporte. Tu as un nom d'être vivant, mais tu es mort. Bon, vous vous souvenez de quel âge il s'agissait? Martin Luther, l'âge luthérien. Maintenant, ils ont été condamnés dès le départ. Ils n'avaient même pas besoin de commencer, ils étaient déjà morts. Ils n'avaient pas besoin de mourir, ils étaient déjà morts. Vous voyez, il vient juste d'être arraché. Maintenant, remarquez ceci. Maintenant, lisons le verset suivant. Observez. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Maintenant, il parle à Luther à présent. Nous admettons que tout cela, c'était l'âge luthérien, c'était la réforme. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Vous portez un faux nom en disant que vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés tout droit dans la dénomination à nouveau. Alors, la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Ne revenez pas toujours sur ça, les catholiques. Vous voyez, parce que vous ne revenez tout droit là-dedans en employant les mêmes credos et les mêmes noms. Eh bien, Luther a fait sortir beaucoup de ses catéchismes et toutes les autres choses qui appartiennent à l'Église catholique. Puis, ils ont eux-mêmes pris un nom. Vous voyez, tu as un nom d'être vivant, tu es établi après ces 1000 ans de mort et tu portes encore ce nom. Tu as un nom, vous vous souvenez? Pour être certain, c'est exact. Les autres églises ont dit, tu as gardé mon nom, tu as gardé mon nom à cet âge-ci. Ils l'ont perdu, ils sont arrivés ici. Tu as un autre nom d'être vivant, mais tu es mort. Oh, vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Voyez? Sortez de ces vieux credos morts, des choses qui appartiennent à l'Église catholique qui va être consumée et toutes ses filles avec elle. Personne ne peut dire que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ce genre et ces choses, il appelle la Sainte Trinité. Je veux que quelqu'un essaie de trouver le mot Trinité dans la Bible. Il vient de m'en parler simplement de trouver le mot Trinité. Il n'y a pas, même pas là-dedans. Pareille chose n'existe pas. Maintenant, il est prêt à mourir. Accrochez-vous à ce que vous avez. Luther vous a arraché de là. Tenez-vous-en à ça, parce que c'est tout près de mourir. Vous allez, ils vont vous ramener immédiatement là-dedans. Tenez-vous-en à ça, c'est tout près de mourir. Maintenant, je ne t'ai pas encore trouvé parfait devant Dieu. N'est-ce pas? Merveilleux. Oh là là, j'aime ça. Pas parfait, pourquoi? Ils étaient seulement justifiés. Luther prêchait la justification. Il fallait être sanctifié et ensuite rempli du Saint-Esprit. Et alors, ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes. Ils ont été perfectionnés par le Saint-Esprit en eux. Ce n'est pas le chrétien qui est parfait, c'est le Saint-Esprit parlait en lui. Vous voyez? C'est ce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la montagne sainte, c'est le Dieu saint sur la montagne. Pas l'Église sainte, pas les gens saints, mais le Saint-Esprit dans l'Église et dans les gens. C'est la partie sainte, vous voyez? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, tu n'as pas atteint la perfection. Parce que nous découvrons maintenant qu'ils avaient la justification juste ici. La justification. Et c'était, non, je vous demande pardon. La justification est juste ici avec Luther et la sanctification est ici. Ici, le Saint-Esprit, vous voyez? Maintenant, ces trois éléments qui ont travaillé dans ces trois âges de l'Église, c'est ce qu'il faut pour avoir une naissance complète. Ils ont été conçus comme un petit germe dans le ventre d'une mère. C'est vrai, le Saint-Esprit qui vient au monde. Je voudrais maintenant vous poser une question. Quand une naissance naturelle a lieu, quelle est la première chose qui prend place? De l'eau. La chose suivante, du sang. Pas vrai? La chose suivante, l'esprit. C'est vrai? Qu'est-ce qui est sorti du corps de Jésus quand il est mort? Ils ont percé son côté et l'eau et le sang sont sortis. Et entre tes mains, je remets mon esprit. L'eau, le sang, l'esprit. C'est pourquoi, étant justifié par la foi, Romains 5.1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, la justification. La sanctification, Hébreux 13, 12 et 13. Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier son peuple par son propre sang. Luc 24, 49, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après cela, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Ce n'est pas quand vous devenez évêque, ni quand vous devenez diacre, ni quand vous devenez pasteur, ni quand vous devenez pape. Mais après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, alors vous rendrez témoignage. Vous pouvez seulement témoigner de votre Église et de votre credo en tant que, si vous êtes un diacre, un pasteur ou un pape, ou si vous êtes, vous n'êtes que le témoin d'un credo. Mais quand le Saint-Esprit est tombé sur vous, alors vous rendez témoignage de lui. Et les œuvres qu'il a faites, vous les ferez aussi, parce que sa vie est en vous. Oh, oh là là, j'aime cela. Oui, monsieur. Oui, j'en reçois plus en haut de ceci, et ici, je crois que vous en recevez là-bas. Je me sens bien avec cela. Les choses qui sont tout près de mourir, accrochez-vous à elles. Maintenant, il dit ici, maintenant dans le troisième couplet, rappelez-toi, donc comment tu as reçu et entendu, tiens ferme et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tiens-toi à ta justification. Tiens-toi à ça. Ne laissez personne vous l'enlever. Parce que vous avez reçu, vous l'avez aussi entendu. Ils lisaient la même Bible que nous, vous voyez. Mais ils n'ont pas tout pris, parce que ça ne leur avait pas été révélé. Ce n'était pas pour leur âge. C'est pour la raison pour laquelle ils feront partie de la résurrection. Ils ont marché dans la lumière qu'ils avaient pour marcher, alors ils en feront partie. J'ai entendu beaucoup de pentecôtistes prêcher le baptême en disant les luthériens, ainsi de suite, n'en feront pas partie. Oh oui. Vous connaissez la petite histoire du docteur Louis là-haut? Quand je lui ai dit, il a dit, qui sommes-nous? J'ai dit, vous savez, ils ont érigé ce grand séminaire luthérien là-bas à Bethany, à Minneapolis. Il m'a dit, qu'avons-nous, nous les luthériens? J'ai dit, eh bien, je vais vous le dire. Je crois que vous avez reçu Christ. Il a dit, eh bien, nous voulons le Saint-Esprit. Il a dit, vous croyez que nous l'avons? J'ai dit, potentiellement. J'ai dit, vous y croyez? Eh bien, que vous voulez dire? Maintenant, il y a des milliers d'arpents là que leurs étudiants, s'ils ne parviennent pas à payer, ils les laissent travailler et cultiver du maïs. Je dis, eh bien, il n'y a que de grandes tables. Il m'offre un de ces buffets scandinaves dans ce grand séminaire. Et maintenant, ce sont des braves hommes. Le docteur Aiguille est assis ici, le frère Jack Moore pas ici, car je l'ai placé près de moi au cas où il aurait employé de grands mots que je ne connaissais pas. Je vais frapper Jack avec ma jambe et voir ce qu'il avait à dire. Vous voyez? J'ai dit, il s'est installé à côté de moi. Il a dit, eh bien, ce que nous dirons, c'est de comprendre. Nous avons faim de Dieu. Nous avons lu un livre sur la Pentecôte, les dons. Nous sommes allés, un groupe de frères ont pris l'avion pour la Californie. Nous avons rencontré l'homme qui a écrit le livre, et je le connais. Nous aimerions voir des dons en action. Je n'en ai pas. Il a dit, j'ai seulement écrit à leur sujet. Alors il a dit, donc quand nous sommes venus par ici, nous avons vu cela, nous avons eu faim. Nous voulons Dieu. Il dit, bien, un jour, un homme est sorti, vous savez, sur son propre terrain. Vous voyez, un homme est sorti, il a préparé un grand champ. Il en a enlevé toutes les racines et tout, puis il a planté du maïs. Chaque matin, il se rendait à la porte et regardait dehors pour voir s'il y avait du maïs. La première chose que vous savez, c'est qu'un matin, deux petites feuilles avaient poussé. Est-ce que quelqu'un a déjà cultivé George Wells et Roy Slaughter et les autres? Vous savez, c'est deux petites feuilles qui sortent. Oh, il a dit, gloire à Dieu pour mon champ de maïs. J'ai dit, y avait-il un champ de maïs? Il a dit, eh bien, d'une certaine façon. J'ai dit, potentiellement, oui. J'ai dit, c'était vous, les luthériens, dans la première réforme, en faisant pousser cette petite feuille, vous voyez? Eh bien, j'ai dit, petit à petit, ce maïs a poussé. Je ne lui ai pas parlé de quand, sur la mer, vous voyez? Je l'ai laissé partir avec le maïs qui pousse. Alors, j'ai dit, le maïs a poussé, au bout d'un certain temps, il y avait une aigrette dessus, et cette aigrette a regardé la feuille, elle a dit, ah, tu n'as rien, vieux luthérien formaliste, vous voyez? Il dit, je suis le reproducteur. Le grand temps missionnaire. Le vent a soufflé, les petites aigrettes se sont inclinées comme ça et elles sont tombées vers là-bas. Et ça, c'est Wesley, la sanctification, vous voyez. C'était le plus grand âge missionnaire que nous ayons jamais eu. C'était l'église wesleyenne. À l'époque de Wesley, cela dépasse même cet âge. L'âge de l'église wesleyenne. C'était un âge missionnaire et cela s'est répandu. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a répandu. La nature même porte témoignage de ces trois-là, jusque-là. La nature elle-même, Dieu au commencement, la fin ici, pour qu'il en soit ainsi. Il n'a même pas besoin d'avoir la Bible. Vous pouvez regarder la nature et voir où vous en êtes, vous voyez. Et puis là, au bout d'un moment, il est tombé là-bas. Et qu'est-ce qui s'est ressorti? Un épi de maïs en est sorti. Il avait des grains dessus. C'était le groupe pentecôtiste. Maintenant, le groupe pentecôtiste, c'était le même genre de groupe qu'ici. D'ici, il y avait deux épis de maïs. Luther, ici, il avait les graines. Wesley, ici, il avait le grain de maïs. Quoi? Exactement comme c'était ici. La même chose. Eh bien, qu'est-ce que c'était ici? Vous dites, eh bien, maintenant, le pentecôtiste dit, je n'ai pas besoin de vous, les méthodistes et les luthériens. Mais après tout, la vie même qui était dans les deux petites feuilles a aidé à fabriquer l'aigrette. Et la vie qui était dans l'aigrette a produit le maïs. Donc, vous voyez, ça fait toute partie du programme de Dieu. Il avait le Saint-Esprit potentiellement. Wesley aussi, sous la sanctification. Mais aujourd'hui, cela a restauré le parlant en langue et la restauration du commencement ici. Le même Saint-Esprit, vous voyez, il est vrai. Amen. Amen. Oui, très bien. Tenez ferme à ce que vous avez entendu de peur qu'il ne meure. Maintenant, le verset 4, je crois. Cependant, tu as quelques noms. À Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont dignes. Maintenant, n'en faites pas une dénomination, on ne veut pas faire ça. Non, j'ai lu le mauvais verset, n'est-ce pas? Oui, je me trompe. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, très bien. Oui, à Sardes n'a pas souillé leurs vêtements. Il y en a quelques-uns qui ne voulaient toujours pas s'incliner devant cette chose, qui sont restés purs et propres, la vieille trace qui remonte à la Pentecôte, ceux qui étaient remplis de l'Esprit. Beaucoup d'entre eux, là, quand l'âge de Luther a commencé à se dénominationner, ont-ils fait? Cela a commencé exactement comme la Bible le dit, agissant comme leur maman. Ils sont revenus, ont commencé une dénomination, mais quelques-uns d'entre eux ont dit qu'ils ne le feraient pas. Ils ont pris position pour Dieu. Ils ont dit, bon, d'accord, tu as quelques noms. Ils sont dignes de marcher devant moi, vêtus de blanc. Ne faites pas de domination. Ne reprenez pas la doctrine nicolaïte maintenant. Ne recommencez pas votre domination, mais restez libre en Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire à mesure que vous avancez. Il en reste quelques-uns. Maintenant, je crois que c'est le verset 5. Que celui qui a une oreille, voyons un peu. Non. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Maintenant, les quelques noms, il n'en restait que très peu, un petit reste qui n'ont pas pris a été pris par la doctrine catholique. Très bien. Nous en venons maintenant à parler de la réforme. J'ai laissé de côté ce qui concerne Luther pour que je puisse en parler ici. Maintenant, le verset suivant dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu essaie de les avertir ici de rester en dehors de ce Nicolaïsme. Tenez-vous loin de ce genre de choses. Gardez-vous vêtements à l'abri de toutes choses du monde. Restez simplement libre en lui et il les conduirait et les guiderait. Maintenant, c'est quand on a commencé au départ. Puis par réforme, j'entends par là les évadés, ceux qui s'étaient échappés, même dans l'église de Sardes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ceux qui avaient encore échappé à cette chose horrible. Maintenant, nous le reprendrons demain soir et nous le ramènerons ici même à l'âge pentecôtiste et vous montrons ce que c'est exactement. Maintenant, il y a certaines de ces choses dont nous parlons ici, le comment ils ont-ils échappé. Maintenant, nous allons reprendre ça dans l'âge suivant. Vous voyez, nous devons les prendre pour qu'ils s'ajustent ensemble. Si vous ne le faites pas, alors vous allez manquer de donner aux gens. Nous allons river le clou dans l'âge suivant, vous voyez. Vous devez leur donner de la même façon que la Bible leur donne ici, vous voyez. Très bien. Maintenant, c'est de ceux qui se sont échappés qu'il parle. C'est ça juste ici, ce petit groupe qui vit de la justification. Maintenant, regardez, ils sortent, ils voient la lumière, Luther tourne à droite, après la mort de Luther, pas Luther, Luther n'a jamais formé d'organisation, c'était ce groupe après lui. Wesley n'a jamais formé d'organisation, c'était ce groupe après lui. Les anciens fondateurs de la Pentecôte n'ont jamais formé d'organisation, c'était le groupe après eux. C'est celui-là qui l'a fait. Vous voyez, c'est celui qui vient après qui le fait. Le véritable ange de lumière ne formera jamais une organisation. Vous allez découvrir au sujet de cet âge pentecôtiste ce qui arrive à la fin de cette organisation aussi. Vous voyez, quand le Saint-Esprit nous le révèle. Donc, il a dit, il te reste qu'un peu de lumière, un tout petit peu. Elle est tout près de mourir, elle s'amenuise, c'est la justification. Elle peut vous faire aller dans n'importe quelle direction. Vous n'avez pas encore la vie parce que vous avez pris le mauvais nom. Mais vous êtes, au moins, vous êtes arraché. Vous avez échappé à l'Église romaine. Vous avez échappé à tous ces dogmes et vous êtes au moins arrivé jusque-là. Maintenant, vous lisez la même Bible. Maintenant, mais la même Bible qui enseigne le Saint-Esprit, il ne les a jamais condamnés pour ce qu'elles avaient. Il a dit, c'est ça, tiens-toi-en à ça, jusqu'à ce que je vienne. Voyez, continuez de vous accrocher. Maintenant, l'âge de l'Église commence vers 1520, lorsque l'Église catholique, romaine et universelle battait son plein. Cela a duré jusqu'au 31 octobre, si vous prenez des notes, le 31 octobre 1570, après Jésus-Christ, lorsque Martin Luther a cloué ses 80 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne, et à partir de ce moment-là, la réforme est en marche. Avez-vous pris en note ces dates? Laissez-moi le répéter pour être certain. Le 31 octobre 1570, après Jésus-Christ, lorsque Martin Luther a cloué ses 80 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, W-I-T-T-E-N-B-U-R-G, Wittenberg, en Allemagne, à partir de cette date, la réforme avait commencé, le feu était allumé. Il a protesté contre cette église catholique. Il se tenait là avec cela dans sa main comme ça. Il a dit, ceci serait le Saint-Corps de Christ. C'est une hostie, un peu de vin. Et Balaigne, il l'a jeté par terre. C'est vrai. Il a protesté contre l'Église catholique. Le cela a commencé. L'arrachage a commencé alors. Très bien. C'était commencé. Mais c'était plus une lutte pour la puissance politique que pour la véritable Église, pour les normes chrétiennes.
The real true church for the Christian standards.
Ils ont seulement lutté pour un droit politique de sortir de l'Église et de faire une autre Église. Ils ne se sont jamais réformés, sortant de l'Église catholique pour ramener le Saint-Esprit et la puissance dans l'Église, parce qu'ils l'ont renié. Hein? C'était un rassemblement politique. C'est là que ça s'appliquerait certainement. Tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort. En d'autres termes, il a juste sorti la dénomination protestante, c'est tout. Il a fait sortir une fille d'une église. De là, il a fait sortir une prostituée d'une prostituée. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait sortir Athalie de Jézabel. Or, quiconque lit la réforme sait que c'est juste. Parce qu'il ne fait que quelques-unes des vieilles reliques et ordres et les cérémonies, il les a simplement démolies. Mais en ce qui concerne ramener le Saint-Esprit dans l'Église comme il en était ici, il ne l'a pas fait. Non, monsieur, c'était plus un combat politique qu'un combat spirituel. C'était de la politique au lieu du Saint-Esprit. Il n'était pas encore entré dans l'Église. Oh, frère! Il n'était pas revenu. Il est revient ici, pas là-haut. Oh! Cela a été un grand rassemblement politique, mais ce n'était pas pour les Saintes Écritures et le Saint-Esprit. C'était un rassemblement politique qui s'est débarrassé de certaines des vieilles reliques, des crucifix et des Ave Maria et tout ça. Et il a quand même fait sortir le catéchisme. Il a quand même sortir de cela. Comment l'appelez-vous? Le service de consécration, de peu importe qui il y en avait là-bas, quand ils descendent le matin de Pâques et le pasteur leur souhaite un joyeux Noël. Vous savez, je ne les vois plus jusqu'au Noël suivant, il a dit, vous savez. C'est confirmation, service de confirmation, c'est ce que je voulais essayer de dire. Ils les prennent et les confirment, ils leur donnent la première communion, ils les confirment. La confirmation, ça n'existe pas. La seule confirmation qui est mentionnée dans la Bible, c'est quand Dieu a confirmé sa parole par des signes et des prodiges qui accompagnent. C'est la confirmation, pas la confirmation de l'appartenance à l'Église luthérienne, mais Dieu confirmant sa parole en vous. Le Seigneur a été à travailler avec eux, Marc 16, confirmant la parole par des signes qui les accompagnaient. C'est la confirmation de l'Église de la Pentecôte. Dieu se confirme lui-même vivant comme un Dieu qui accomplit des miracles dans l'Église, qui parle en langue, qui interprète les langues et qui accomplit les mêmes choses qu'au commencement. Est-ce que je vous épuise? Très bien. Maintenant, remarquez, ils n'ont pas ramené le réveil du Saint-Esprit, ils ont ramené un nouvel âge de l'Église. Ils en ont ramené un arraché et échappé à la hiérarchie romaine pour en faire une hiérarchie protestante. C'est la seule chose qu'ils ont faite, sauter directement de la poêle au feu. Vous voyez? C'est vrai. Exactement. Jézabel vient de donner naissance à une fille. Et maintenant, ne croyez pas que je dis cela simplement pour faire le malin. Je dis cela parce que la Bible l'a dit. La Bible, dans Apocalypse 17, a dit « Elle était la mère des impudiques. » Jésus a dit ici, tout comme Jézabel l'était, elle le sera aussi. Et elle a produit des filles qui ont pollué le pays qui n'était pas pollué. C'est exactement ce que le protestantisme a fait au véritable Esprit de Dieu. Il a pollué la chose et l'a remise dans une autre organisation. Que si Dieu le veut dimanche matin, je veux vous montrer qu'ils font une image de la bête et que la bête était Rome. Ils ont fait une image comme ça. Qu'est-ce que c'était? Une organisation. Oh, j'espère que ça va pénétrer dans le cœur des gens. Vous vous demandez pourquoi j'ai combattu toute ma vie contre l'organisation. Je ne le savais pas moi-même. Mais c'était quelque chose en moi qui criait. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me demandais toujours pourquoi je prêchais continuellement contre les femmes alors, vous voyez, toute ma vie. Pas vraiment, je veux dire, je ne parle pas des vraies femmes, je parle de ces supposées femmes, vous savez, des fibres morales brisées en elles et tout ça. Vous savez, c'est le genre de quelque chose en moi. Quand j'étais tout petit garçon là-haut, je voyais venir une femme sur la route. Elle savait que leur mari était en train de travailler. Ils étaient là-haut avec un homme, Yves, sur le bord de la route. Ils montaient, ils descendaient la route pour les rendre suffisamment sobres pour les faire rentrer à la maison, préparer le souper de leur mari. J'ai dit qu'elle ne valait même pas qu'une balle propre. Les transfert, c'est vrai. J'ai dit qu'elles sont les plus basses des animaux. Elles faisaient une chose pareille. Que j'avais 17 ou 18 ans, je voyais une fille qui descendait à la rue. Je traversais de l'autre côté. Je disais que c'était une vipère puante. Ils auraient été un vrai misogyne, mais quand j'ai reçu Dieu dans mon cœur, Dieu m'a fait savoir qu'il y avait des joyaux, il y a de vraies dames. Ils ne se souilleront pas tous comme ça, Dieu merci. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais en Suisse, quand j'étais à Rome, et on m'a souvent posé la question suivante. Il dit, frère Branham, avez-vous au moins une femme honnête en Amérique? Chaque chanson qui vient ici, il y a quelque chose de suit à propos de vos femmes. J'ai dit, ça, c'est les Américains, mais nous avons un autre royaume qui existe là-bas. C'est le royaume de Dieu. Ce sont des dames jusqu'à la moelle. Elles le sont. La Bible a dit dans les prophètes, je crois que c'est environ au chapitre 5 d'Isaïe, je ne suis pas sûr, ce sera au chapitre 5 où cela parle de « Heureuse cette fille de Sion, elle échappera ce jour à toutes ces choses. » Comment elle marchait dans la rue, elle roulait ses bas, elle marchait à petits pas, elle se triboussait comme ça, et les choses qu'elle ferait, exactement comme ils le font maintenant, parfaitement. Porter des vêtements comme un homme, ce qui est une abomination pour Dieu. J'ai vu une société religieuse il y a quelque temps entrer pour avoir une sorte de grande réjouissance qu'ils ont tous les soirs et toutes ces femmes qui entrent avec ces culottes ou comment vous appelez ces choses, pas des chats, mais l'autre chose, oh, ce sont des pantalons corsaires ou ces choses-là. Abandonnés, ils ont besoin d'un coup de pédale. D'accord, frère, c'est une planche à peu près large comme ça, c'est vrai. La tête vient, le pied tombe, c'est avec ton pied. Et c'est exactement ce qu'ils ont besoin, c'est vrai. Mais où vous dites, bien, je pense que c'est plus décent pour une femme de porter ça qu'une jupe. Dieu a dit, c'est une abomination à ses yeux qu'une femme mette un vêtement. Et quand une femme se coupe les cheveux comme un homme, Dieu veut qu'une femme ressemble à une femme, s'habille comme une femme et agisse comme une femme. Il ne veut pas un homme avec de grands favoris qui pendent comme ça et puis comme un canard placé à l'arrière de la tête comme ça. Il veut qu'il ressemble à un homme. Oui, monsieur, ils s'habillent si efféminés qu'ils ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. C'est pitoyable, c'est beatnik de tout ce qu'on a aujourd'hui. Pas étonnant que nous vivons au temps de la fin. Il ne reste rien d'autre dans ce monde autre que Dieu qui répande sa colère sur celui-ci qui brûle. Voilà tout. Un Dieu juste et saint ne pourrait rien faire d'autre. Ils ont dédaigné le sang de Jésus-Christ, ils se sont dogmatisés, ils sont entrés dans une organisation, et le vieux, un vieux Saint-Père avec son vieux, un vieux célibataire, avec son col tourné, vient et leur dit, « Mes enfants bénis, cela ne signifie rien de plus que si une tuile aurait dit. » Je vous l'ai dit, ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'un retour à la Bible et au Saint-Esprit, frère, et la puissance de Christ ressuscité venant dans l'Église en faisant des signes et des prodiges et des miracles. Amen. Ça, c'est l'Évangile, oui, à faire naître. Alors, oui, c'est vrai. Il a fait le réveil, a fait de bonnes choses là-bas, ce réveil. Mais ça n'a pas produit le Saint-Esprit. Ils n'ont pas produit avant d'arriver à l'âge de Laodicée, dans l'âge de la Pentecôte. Mais ça a produit une chose. Ce réveil a produit certaines choses qu'il a dit, ne le laisse pas se mourir maintenant, fortifier cela et continuer à y ajouter, vous voyez, ça a redonné aux gens un libre accès à la Bible. L'âge luthérien a donné un libre accès à la Bible. Ils ont mis en place une imprimerie et ont commencé à distribuer la Bible au monde. Que Dieu bénisse les luthériens pour cela. Oui, monsieur, ils ont remis la Bible entre les mains des laïcs. Elle était seulement réservée aux prêtres. Ils ne devaient même pas y ajouter un coup d'œil parce que c'était ce que le peuple disait qui comptait. Il était Dieu. Alors, quoi qu'ils disent, c'était réglé. Ainsi donc, dans le réveil luthérien, ce dont ils avaient besoin pour affirmer, maintenant vous avez la Bible entre vos mains, maintenant lisez-la, croyez-la, ne la laissez pas sur une étagère en disant « Oh, une Bible, on ne le fera pas bien en étant là-haut, il y a trop de luthériens dans la Pentecôte aujourd'hui qui laissent la Bible de côté, ils prennent ce que quelqu'un d'autre en a dit. Frère, lisez la parole, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle, c'est la chose à faire, lisez la parole. » Maintenant, il a simplement dit, accrochez-vous à cela, ne pas laisser cela s'échapper. Il avait encore un peu de force en eux. Une autre chose à laquelle il voulait qu'il s'y accroche, c'était le réveil luthérien. La deuxième chose qu'il a faite, il a mis en lumière la doctrine de la justification. Le catholique n'accepte pas la justification. Pour eux, c'est l'Église catholique. Tout comme ce prêtre dont on a dû arrêter l'émission de radio il y a quelque temps, il a dit, il n'y a pas de salut ailleurs que dans l'Église catholique. Le salut est en Christ, pas dans l'Église catholique, pas dans l'Église protestante. Le salut, c'est en Christ. Et les catholiques croient, ils ne se soucient pas de ce que dit la Bible, pour eux, c'est ce que l'Église, que dit l'Église qui compte, vous voyez, vous ne pouvez pas rien leur dire parce qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun moyen de leur parler. Ça ne les intéresse pas, ils vous parleront de leur catéchisme, n'importe quoi de genre. Mais quand vous en venez à la Bible, ils rejettent simplement cela. C'est ce que dit l'Église qui compte. Et Jésus a dit, c'est à ce même sujet, Jésus lui-même a dit, si quelqu'un retranche ou y ajoute quelque chose, il retranchera sa part du livre de vie. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et que la mienne soit comme la vérité. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Pareil? Oh, c'est ça, mon frère. Je suis un croyant de la parole de Dieu. C'est vrai. Et pas seulement cette parole que Dieu a prononcée là, mais je demande au Père Céleste de me donner le Saint-Esprit pour confirmer cette parole, pour faire vivre Christ en moi. Oh, je sais que j'ai la vie éternelle, pas parce que je la mérite, parce que sa grâce me l'a donnée. C'est cela le rocher. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, a-t-il dit. Très bien, la justification. Très bien. La chose était qu'après qu'ils avaient déjà prévu quelque chose, ils ne devaient pas laisser mourir. C'est-à-dire qu'ils avaient de nouveau la Bible entre leurs mains. Les luthériens ont fait ça. Et une autre chose, ils avaient la doctrine de la justification par la foi. C'est ce que Luther enseignait à tout le monde, c'est que c'était sa doctrine. La justification. Ne voyez-vous pas à quel point c'était parfait? Puis Wesley vient avec la sanctification, puis ils arrivent, les pentecôtistes, avec le baptême du Saint-Esprit. C'est tout à fait parfait. Maintenant, je, tu as peu de choses, accroche-toi à cela maintenant et ne le laisse pas mourir. Si tu n'y accroches pas, je viendrai vite comme un voleur et tu retourneras tout droit à la dénomination. Et c'est ce qu'ils ont fait exactement. Ils y sont retournés. Tu retournes directement chez les Nicolaïtes parce que tu retourneras tout droit à la dénomination. Tiens ferme, continue à lire la Bible, garde la justification et continue à courir vers le but. Mais il y a un petit reste qui est sorti de là. Un petit reste. Après que le premier soit venu, Luther puis Wesley, et ensuite Calvin, et ainsi de suite à Wesley. Mais il y avait un petit reste qui est sorti de là et qui enseignait la sanctification. Et de la sanctification est sorti un petit reste qui a continué jusqu'au Saint-Esprit. Voyez ce petit reste tout le long du chemin qui garde ça sans vie. Très bien. Mais troisièmement, ils ont amené avec eux de nombreux rites de doctrines païennes comme les dénominations, le faux baptême. Maintenant, ils ont amené l'aspersion et des choses comme cela, et le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils ont amené le catéchisme. Ils avaient vraiment, ils correspondaient vraiment au nom avec ce que Jésus a dit ici. Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. C'est exact. Très bien. Quatrièmement, il est vrai que la réforme a balayé beaucoup de leurs éclatantes reliques et leurs rituels, ainsi de suite. Mais elle a échoué dans l'Église et dans la restauration d'apporter la réforme. Elle n'a pas réussi à restaurer l'enseignement du plein évangile avec des signes qui l'accompagnent. L'Église luthérienne ne l'a jamais eu. Ils ne l'ont jamais eu. Ils ne l'ont jamais eu dans l'âge de Wesley. Ils l'avaient à la fin de cet âge de l'Odyssée. Maintenant, quand nous entrerons là-dedans, nous reviendrons tout de suite aux Écritures et nous vous montrerons exactement comme cela a été promis. Ils n'avaient pas eu, ils n'avaient pas restauré le réveil du Saint-Esprit. Ils se sont détournés des idoles. Et ils se sont détournés des idoles, c'est vrai. Ils ont jeté les idoles hors de l'Église. Marie et Joseph et Pierre, Paul et tous les autres. Ils se sont détournés des idoles, mais ils ne se sont pas tournés vers le Christ ressuscité. Luther les a détournés des idoles, mais ils ont été dans la politique ou une dénomination ou une organisation pour se faire une autre organisation, une image comme la première, et essayer de dépasser en nombre par la dénomination. Et maintenant, ils se battent encore aujourd'hui. Les méthodistes veulent toujours que tous les baptistes deviennent des méthodistes. Et tous les luthériens veulent que tous les baptistes et les méthodistes deviennent des luthériens. Les pentecôtistes veulent que tous les baptistes, les luthériens, tout le reste deviennent des pentecôtistes. Vous voyez, vous ne faites qu'ajouter des membres à votre dénomination. Mais ce n'est pas le programme de Dieu pour commencer. Le programme de Dieu pour la restauration était de ramener ce qui était dès le commencement. Écoutez, ressuscitez ça. Si ce livre tombe par terre, maintenant, prendre un autre livre et le mettre à sa place n'est pas une restauration, une résurrection. Vous devez ramener le même livre. Amen. Donc, si l'Église est morte pendant l'âge des ténèbres et est devenue complètement païenne ici, alors la restauration, là, ça, c'est une réforme, réformée. Mais être réformé et être né de nouveau sont deux choses différentes. Voyez? Ils ont ramené la réforme, réformant, s'éloignant de beaucoup de leur idole et ainsi de suite, mais ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit dans l'Église. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, pouvez-vous le voir? Ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit parce que celui qui apporte vraiment la lumière de l'Évangile, revêtez-vous de votre casque maintenant. Celui qui apporte la vraie lumière de l'Évangile est l'ange de l'Église en bas ici. Maintenant, nous allons voir ça dimanche. Maintenant, ils auront beau avoir des lumières sur une lumière et des lumières chrétiennes, mais ils retourneront tous directement dans cette organisation. Mais il y aura un qui s'opposera à elle. Oui, monsieur. Il secouera et fera sortir de là un reste. C'est sûr que je me tiens ici, sur cette chair. C'est vrai. Et il retournera directement au commencement. Je prendrai les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament et je vous prouverai qu'il le fera. L'ange de l'Église de Laodicée, c'est vrai. Il retournera tout droit à la chose originale et ressuscitera à nouveau cette chose-ci. Et la résurrection aura lieu en ce temps-ci, c'est vrai. Mais Luther a secoué et fait sortir de l'Église ceux qui s'étaient échappés. Un pas à la justification. Ceux qui s'étaient échappés, ils ont un pied hors du paganisme, c'est très bien. La prochaine fois, ils ont mis deux pieds dehors. C'est tout. Tout comme vous remarquez dans la Bible qu'il y a de l'eau qui sortait à l'arrière du temple. Il a dit qu'il a vu de l'eau à la hauteur de ses genoux, puis le lendemain, de l'eau à la hauteur de sa hanche, et la fois suivante, c'était par-dessus sa tête. Et quand c'était par-dessus sa tête, il devait nager pour se rendre à un endroit. Oui, il devait nager. Donc, à un endroit où on doit se nager ou se noyer, c'est tout. Ça va vous noyer, vous emportera complètement, vous fera entrer de deux choses libres. Alors, c'est soit nager, soit se noyer. Alléluia! Je suis si heureux pour le Saint-Esprit. Par vous, je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Et qui? Ni cela. Heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. N'est-ce pas que ça sonne bien? Écoutez, ils étaient assemblés dans la chambre haute, tous priant en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour servir vient. Ce qu'il fit pour eux en ce jour-là, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ou l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ont-ils au séminaire? Non. Certains d'entre eux ne savaient même pas écrire leur propre nom. C'est vrai. Pierre ne pouvait pas. La Bible a dit que c'était un homme ignorant et sans instruction. Oui, comme Jean, mais ils étaient obligés de les écouter parce qu'ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Bien que ces personnes n'étaient pas instruites, ni célèbres dans le monde, oh Dieu merci, j'ai beaucoup de ceci et cela, ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés au nom de Jésus. Et ils proclament maintenant en tout lieu que sa puissance est toujours la même. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un truc. Je suis si heureux de dire que je suis devant toi. N'êtes-vous pas heureux de cela? Je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Je préfère être l'un d'entre eux que tout ce que je sais. Oh, je préfère être l'un d'entre eux plutôt que d'être le président des États-Unis ou le roi du monde. Si le Seigneur Jésus descendait ici, il disait, je te ramènerai à l'âge de 20 ans, je ferai de toi un surveillant, un roi du monde entier, je te donnerai 10 000 ans de vie sur cette terre, être toujours âgé de 20 ans, sans jamais être malade un seul jour, sans aucun chagrin, et tout sera joie et tout, être le roi de la terre entière pour vivre 10 000 ans. Où voudrais-tu être l'un d'entre eux et simplement lutter comme tu fais? Je dirais, je suis si heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Après 10 000 ans, alors quoi? Mais ceci est éternel. Comment c'est venu, mon frère? Oh, c'est venu à travers le sang. C'est vrai, c'est venu de loin. Et c'est venu par Dieu qui a été fait chair et a habité parmi nous. Dans une crèche, il y a longtemps. Et je sais que c'est vrai. Un bébé est né pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean le vit sur le rivage. L'agneau pour toujours, ô Christ, le crucifié du calvaire. Ô j'aime l'homme de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il a placé le Saint-Esprit en moi. Ô j'aime cet homme de Galilée. La femme au puits lui a dit tous ses péchés. Et même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il lui dit qu'elle avait alors 5 maris. Tous ses péchés furent pardonnés. Et une paix profonde entra en elle. Elle s'écria, venez voir cet homme de Galilée. Oh, j'aime cet homme de Galilée. De Galilée. Car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il a placé le Saint-Esprit en moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Un jour, dans le temple, le publicain alla prier et cria au Seigneur, aie pitié de moi, tous ses péchés étaient pardonnés et une paix profonde entra en lui. Il dit, venez voir cet homme de Galilée. J'aime cela, pas vous? Les boiteux sont mis à marcher, les muets sont mis à parler. Cette puissance fut proclamée avec amour sur la mer, et l'aveugle s'est mis à voir. Je sais que cela ne pouvait être que la miséricorde de cet homme de Galilée. Chantez cela avec moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il a placé le Saint-Esprit en moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Ne l'aimez-vous pas? Oh là là. C'est le bon évangile du Saint-Esprit. Oh, combien j'aime cela. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis si heureux ce soir que je sois compté parmi eux. Et que nous soyons assemblés comme des frères et des sœurs, baptistes, méthodistes, catholiques, presbytériens, quoi que ce soit d'autre. Dieu nous a fait sortir de tous les milieux et nous a mis ici dans cette grande communion du Saint-Esprit, n'appartenant à aucune dénomination. C'est à eux de décider ce qu'ils doivent faire, mais nous sommes dans un royaume mystique. Nous sommes baptisés dans le corps mystique de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Qui le sont? Méthodiste, baptiste, presbytérien. Et que celui qui veut vienne. Jésus a dit, tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Et aucun d'eux ne sera perdu. Et je les ressusciterai au dernier jour. Oh là là! Nous avions l'habitude de chanter ce vieux cantique à l'hôtel ici. Je ne sais pas s'il faut le chanter ou non. Une place, oui, il y a une place pour moi à la fontaine. Vous aimez le vieux chant comme celui-là? Que quelqu'un nous donne le ton, quelqu'un qui sait comment l'entonner. Où est notre pianiste? Est-elle ici? Ou le frère Teddy, ou l'un des deux d'entre eux? L'un d'eux, oh mon Dieu, je ne le vois nulle part. Une place? Une place? Oui, il y a une place. Il y a de la place. Pour toi à la fontaine. Une place, oui, il y a de la place. Il y a de la place pour toi à la fontaine. Vous aimez les vieux cantiques? Et j'aime ça aussi. À la croix, mon sauveur. Je suis venu briser les douleurs. Oh là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Son précieux nom. Oh, gloire à... Fermons nos yeux maintenant et chantons-le. Oh là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. J'étais merveilleusement sauvé du péché. Dans la douceur, Jésus demeure en moi. Là, à la croix, où il m'a accueilli. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Son précieux nom. Gloire à son nom. Précieux nom. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Pendant que nous chantons le couplet suivant, serrez la main de quelqu'un devant vous, derrière vous, à côté de vous. Venez à cette fontaine si riche et douce. Jette ta pauvre âme aux pieds du Sauveur. Plonge-toi aujourd'hui et sois guéri. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Ce précieux nom. Gloire à son précieux nom. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Oh, j'aime ça, pas vous? Gloire à son nom. Précieux nom. Gloire à son nom. Là, le sang appliqué dans mon cœur. Gloire à son nom. Oh là là, j'en suis si heureux par vous, si heureux que je puisse venir à cette fontaine si riche et douce, jeter ma pauvre âme aux pieds du Sauveur. Je me souviens qu'un jour, un petit garçon âgé d'environ 18 ans fuyait le Seigneur. Je suis allé dans l'Ouest. Mon père était cavalier. Je voulais partir dresser les chevaux. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui avait soif. Je vous le dis. Je suis allé vers un prédicateur baptiste. Il dit, lève-toi et dis, Jésus est le Fils de Dieu. Nous mettrons ton nom sur la livre. Cela ne m'a pas satisfait. Partout où j'allais, quelqu'un l'adventiste du septième jour. Je suis allé le voir, un homme bien, le frère Barker. Un homme aimable de faire. Il a dit, Billy, viens, accepte le sabbat du Seigneur. Je l'ai maintenant. Mais il a dit, le jour du sabbat. Je me suis dit, oh là là, ça ne marche toujours pas, vous voyez. Je suis allé dans l'Ouest et je me suis dit, je suis allé là-bas ce soir-là. Nous avions le rassemblement du bétail et vous savez, vous enlevez la selle et votre sac de quin. Et vous l'étendez, vous étirez votre selle comme oreiller. J'étais allongé sur ce vieux pain cette nuit-là. Je montais la garde le jour et donc les garçons de l'équipe de nuit étaient partis pour amener le bétail. Il y avait un vieil homme du Texas, s'appelait Slim. Il avait une guitare et il jouait à son nom. Un jour, le gars là-bas avait un pain, il avait un morceau de papier dans lequel il soufflait, Frère Branham, Frère Don. Il avait chanté d'autres chansons, des ballades de cowboy, et ils ont chanté à la croix. Oh là là. Je me suis retourné, j'ai mis ma clôture sur ma tête comme ça. Je regardais en arrière, vous savez, j'ai eu l'impression que ces étoiles étaient suspendues juste là, près du sommet de ces arbres et ces montagnes. Ce vieux murmure éternel serait, je pouvais entendre crier, « Adam, où es-tu? » À environ trois semaines plus tard, je suis descendu en ville et tous les garçons se sont enivrés. Je n'avais pas bu. Je devrais les ramener tous à la maison et les empiler dans la voiture de toute façon. Et ils sortaient là, ils se tiraient mutuellement sur les orteils et tout. C'était dangereux, pas sécuritaire. Ils traçaient une ligne droite et ils parlaient 5 $ pour celui qui arrivait à marcher dessus. Et c'était comme ça jusqu'à ce qu'ils soient tous sobres après avoir reçu leur argent. J'étais là, ils buvaient tous, je me suis mis à l'écart, je pensais, oh là là, il y avait environ 35 ans ou 35, je suppose, il y a 35 ans de ça, je me suis assis là à l'écart, Phoenix, c'était une petite ville à l'époque, où il venait depuis Wickenburg, je m'étais assis là, il y avait une petite fille espagnole qui s'approchait par là en se tortillant, elle a jeté son mouchoir, vous savez, j'ai dit, hey, tu as laissé tomber ton mouchoir, je n'étais pas intéressé, j'ai entendu un petit bruit là-bas dans la rue, je suis allé. Il y avait un vieux garçon qui s'est converti, qui est sorti de ses orchestres. Il y a une marque de vérole sur tout le visage. Il y a des larmes coulées sur les, le long des joues, jouant de la guitare, chantant « Gloire à son nom ». Oh là là, les larmes coulant sur son visage. Il s'est arrêté, il a dit « Frère, tu ne sais pas ce que c'est avant d'avoir reçu ce merveilleux Christ. Gloire à son nom ». J'ai abaissé ce grand chapeau et je m'en suis allé. Oh là là, vous ne pouvez pas vous cacher de lui. Vous feriez aussi bien sortir de le confesser. Oh, il est merveilleux. Oui, il est. Je suis si merveilleusement sauvé du péché. En moi, Jésus vint pour demeurer. Il demeure en moi, là, à la croix où il m'a accueilli. Gloire à son nom. À son nom. Gloire à son nom. Oh là, le sang fut appliqué dans mon cœur. Gloire à son nom. On va à cette fontaine. Si riche et si douce, jette ta pauvre âme au pied du Sauveur, au plonge-y aujourd'hui et sois guéri. Gloire. Maintenant, inclinons la tête, levons simplement nos mains maintenant. Gloire à son nom. Gloire, gloire, ô Dieu, précieux nom. Là, le sang fut appliqué dans mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à Dieu. Levons-nous. Oh, juste une minute, attendez. Je vous parle ce soir alors que vous êtes rassemblés ensemble et j'ai agi sur votre cœur. Je vous parle à nouveau, mes enfants. Ce sont des jours qui seront grands pour ceux qui ont décidé de me suivre, dit le Seigneur, car je vais faire briller sur votre sentier plusieurs choses venant de ma parole. Je vous dis, mon peuple, que si vous prenez la décision de me suivre, alors je vous donnerai la sagesse pour comprendre ces nombreuses choses. Comme je regarde au milieu de vous, je peux voir que dans le cœur de certains, qui sont troublés au sujet de ce qu'ils doivent croire. Mais mon peuple, ce soir, je vous dis de ne pas être découragé et ne quittez pas cet endroit avec une attitude abattue concernant ces choses. Mais je vous dis de regarder au Seigneur. Je dis que je vous donnerai la compréhension et je serai avec vous comme on l'est pour son enfant. je vous ferai voir la lumière sur toutes ces choses. Je vous perfectionnerai, mon peuple. Et je vous parle à vous, mes fils et mes filles, ce soir, comme vous quitterez vos différents endroits, et vous serez mes témoins pour beaucoup de gens. Car je dis qu'autour du monde, il y a des ténèbres et de la confusion. Mais je parle à mon serviteur, dit le Dieu Tout-Puissant. L'heure est pour toi. Je te dis à toi, mon serviteur, élève la lumière de la vérité de mon évangile. Déclare ma sainte parole à mon peuple pour qu'il soit délivré de toutes ces choses, dit le Seigneur. S'il y en a qui ne savaient pas ce que c'était, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit qui parle. Jésus dit, allez dans le monde entier prêcher l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Toutes ces choses dont il a parlé, cela arrivera. Oh, je suis si heureux. Voyez venir le Saint-Esprit descendre, confirmer cette parole, une lumière, prenez-la. N'en doutez pas. Recevez-le, il s'occupera de vous comme d'un enfant et de vous instruira. N'est-ce pas la douceur du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit sur vous. Je me souviens qu'autrefois dans la Bible, il ne savait pas de quel côté venait la chose. La nuit venait et le Saint-Esprit tomba sur une personne comme ça et leur a dit exactement où aller. Ils s'y rendirent et Dieu confondit l'autre armée et les mit en déroute. C'est vrai. Oh, nous vivons encore au temps de la Bible, n'est-ce pas? Amen. Toujours au temps que le Saint-Esprit est là. Oh, levons-nous alors que nous chantons en le nom de Jésus. Souvenez-vous du message. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Quand les tentations surviennent, murmure son nom en priant. Oh, chantons-le encore une fois. Prends le nom de Jésus avec toi. Comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, murmure son nom en priant. Inclinons notre tête maintenant. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux.
Precious name,
you know.
Oh.
Oh, how sweet. Oh,
it's brother land, there's a distant, precious name. Oh, how sweet.
How sweet.
It's brother
snare. And when temptations rouse you gather,
comme nous aimons venir dans ce petit endroit que nous pouvons appeler ton nom. Oh, comme c'est merveilleux de marcher dans cette atmosphère où tout le monde ici est dans une même pensée, seulement un dans ton Saint-Esprit, que tu as un parfait contrôle de toute notre vie, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as montré aujourd'hui à travers ton messager. De venir dans ces derniers jours. Et le messager nous a donné la complète révélation de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous recevons la complète révélation de ton dernier messager, celui que tu as envoyé. Et tout que pour appeler une épouse. Et c'est tellement merveilleux. Et nous remercions, Seigneur, que nous puissions reconnaître cela, Seigneur, par ta grâce. Nous ne croyons pas que c'est une coïncidence que quand tu as pris ton messager, tu as laissé toute cette nourriture emmagasinée pour nous. Tu n'as jamais auparavant laissé quelque chose comme ça. C'est tellement merveilleux. Merci pour cela, Seigneur. Nous voulons seulement ancrer, Seigneur, nos 1000 bandes et plus, et dire, voilà, c'est la chose, c'est la seule chose pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans l'Église ici. Merci pour Frère Samuel, nous tenons derrière lui à 100%. Merci pour Frère Billy. On ne peut même pas proche de lui, mais toi, nous savons que tu es avec lui. Merci pour Frère Joseph, Seigneur, qui élève un nouvel étendard pour nous, Seigneur, dans ces derniers jours. Nous ne savons pas quoi faire, mais toi, tu as amené un autre prophète pour nous. Et tu as dit que Joseph, tu es un prophète, et nous croyons de la même façon que nous croyons toute autre parole, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour avoir élevé cet étendard, Seigneur. Réconforte notre prophète, Seigneur, et donne-lui tes commandements pour le restant de la cette année, et nous ne savons pas si nous allons rester encore cette année, Seigneur. Nous savons que c'est fini, nous voulons rentrer à la maison, nous voulons nous incliner devant toi, Seigneur, et nous voulons t'entendre dire, et nous t'aimons. Seigneur, appelle notre nom, Seigneur, nous languissons d'être avec toi, Seigneur, et réconforte Frère Joseph, ramène-le nous. Nous l'aimons, Seigneur. Nous aimons, Seigneur, toute cette portion de l'épouse qui est ici et à travers le monde entier, Seigneur. Et l'ennemi est après nous, il est après nos enfants, il est après nos bien-aimés, Seigneur. Il est après toutes choses. Oh, donne-nous ton amour, donne-nous ta puissance, Seigneur, pour nous élever au-dessus de tout ce jour de malédiction, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'apprécions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et sois avec nous dans le restant de la semaine et guide-nous et protège-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Precious name, oh, how sweet.
Dieu, non, on s'étouffe. Espoir de la joie du ciel.
And at the name of Jesus, bowing, falling prostrate at his feet.
Prosternant cette
King of kings and what there one where our judge terminate.
Amen.
Precious name, oh, sweet. Sweet. Espoir de la joie du ciel. Precious name.
Que le Seigneur vous bénisse et paix à chacun de vous alors que la réunion est terminée. Nous aimons que le Seigneur vous bénisse.